Lucas, donc bonjour à tous. Donc là, ça va servir d'essayer le micro aussi pour l'enregistrement. Donc merci d'être là ce soir. Donc c'est presque le dernier acte de cette semaine hein, dédié à Kepler. Il y a encore deux manifestations, dont une qui est incertaine parce que c'est une observation qui est bien sûr liée à la météo. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de regarder aujourd'hui la météo, mais hier, ça n'annonçait pas forcément du très très beau temps pour demain. Mais on confirme, toujours pareil. Donc, parce qu'on avait donc, enfin, j'avais prévu de proposer une observation pour observer les satellites de Jupiter demain soir, mais bien sûr, à condition que le ciel soit dégagé. Et donc, cet acte-là devra peut-être être annulé, et il restera en fait une dernière action orientée pour les enfants autour de la découverte de la lunette et comprendre un petit peu le fonctionnement de cette lunette et ce qu'elle a apporté au niveau de l'astronomie. Et donc, c'est un atelier qui aura lieu samedi. Donc, d'ici là, ce soir, eh bien, je remercie Monsieur Letellier d'avoir accepté l'invitation, d'être parmi nous ce soir. D'autant plus qu'il est déjà intervenu cet après-midi pour des lycéens, donc c'est une journée bien, bien remplie, pour en fait donner une nouvelle facette en fait, à cette semaine-là, de découvrir Kepler au niveau de l'histoire, puisqu'on a découvert au travers d'un film, avec un scénario, donc avec des aspects qui peuvent être un peu déformés, avec la musique de Kepler, et ce soir donc on va s'intéresser à Kepler et à son temps, son époque, pour de façon à replacer le personnage dans cette évolution de pensée des différents modèles, des différentes conceptions de l'orbite des planètes et comment on pouvait imaginer donc, ce système solaire à cette époque-là. Donc merci encore. Et pendant l'intervention, comme cet après-midi, donc si n'hésitez pas à intervenir, si vous avez une question, au lieu d'attendre la fin de la conférence comme on le fait souvent, n'hésitez pas, intervenez directement, ça évitera d'oublier la question à la fin. Hein. Et Monsieur Letellier est tout à fait favorable à ça, donc comme à l'école, vous levez la main, vous faites des grands signes, et il n'y a aucun souci, on pourra répondre. Et moi aussi, d'ailleurs, je jouerai Candide ce soir, hein, j'hésiterai pas, pour peut-être provoquer comme ça les questions. Hein. Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation. Donc bonsoir, je suis Christophe Letellier, je suis de l'Université de Rouen. Je suis physicien de formation, en recherche je suis chaoticien, théorie du chaos, et je suis historien des sciences autodidacte, puisque j'ai appris sur le tas, notamment avec le groupe d'Alembert, qui est chargé de la réédition des œuvres complètes. Et donc ce soir, on va parler de Johannes Kepler et la nouvelle astronomie, donc pour plein de raisons que j'aurais parfois beaucoup de mal à expliquer. Je peux dire que j'ai une certaine relation particulière avec ce scientifique, par son parcours, par sa démarche, par tout un tas de choses qui le rendent, enfin, à mes yeux, très humain. Et je vais essayer de vous montrer un visage différent de celui qu'on a l'habitude de donner de Johannes Kepler. Alors, pour resituer, déjà, ça c'est un frontispice d'un livre qui date de 1673. Et vous avez quatre grands astronomes qui se retrouvent sur ce frontispice. Le premier, c'est bien sûr Claude Ptolémée, qui est l'héritier de toute l'astronomie grecque. Le second, c'est Nicolas Copernic, qui a réintroduit l'héliocentrisme en astronomie. Tycho Brahe, pour la qualité de ses observations inégalées à l'époque. Et enfin, le quatrième, Johannes Kepler. Et il est bien clair qu'il n'y a pas de Johannes Kepler s'il n'y a pas les trois précédents. Donc, petite bio très rapide. Johannes Kepler naît en 1570 à Weilerstadt, un tout petit village près de Tübingen, dans la grande banlieue de Stuttgart, en Allemagne. Ici, vous avez sa maison natale, c'est cette maison ici, qui est devenue le musée Kepler à Weilerstadt. Et on va commencer tout de suite en plaçant le sujet, Kepler et l'astrologie. Parce qu'on raconte très souvent que Kepler, c'est l'astrologue, c'est cette vieille astronomie dont il faut se débarrasser. Voyons ce qu'il dit lui-même de l'astrologie. Alors ça, c'est son thème astral qu'il a lui-même fait, parce qu'il était, par ses fonctions, obligé de faire de l'astrologie. Et voilà ce qu'il dit à propos de l'astrologie. Ce qu'on y trouve concernant les secrets de la nature n'est pas rien, et ne doit donc pas être rejeté avec rien. Il faut plutôt extraire les pierres précieuses du fumier. Donc, on a une position qui est assez tranchée et qui est très intéressante. Par ailleurs, pour Kepler, l'astrologie est fille de l'astronomie. Donc la lecture que je propose de l'astronomie de Kepler, c'est de lui appliquer finalement ce que Kepler nous recommande pour l'astrologie. C'est que dans l'astronomie de Kepler, il va y avoir du fumier et il va y avoir des pierres précieuses qu'on va sortir. Et ces pierres précieuses, ça va être les pierres précieuses de Kepler physicien. Je vais pas m'intéresser du tout à la métaphysique, le mysticisme et tout ça de Kepler, qui sont, je vous expliquerai ça plus tard, pourquoi pour moi c'est un enrobage volontaire de Kepler, et je vais me concentrer sur Kepler le physicien, et vous montrer, tenter de vous montrer ce qu'il a vraiment apporté et comment il a révolutionné, si on peut appliquer ce mot-là, l'astronomie. Alors, on retourne un petit peu dans sa biographie. Kepler, les premiers émerveillements, c'est avec sa mère, Katharina Goldelmann. Alors, c'est une vision d'artiste, hein, bien sûr, qui, peut-être vous le savez, a été accusée de sorcellerie. Et donc, Kepler a dû se faire son avocat pour la sortir des griffes de la justice. Comme souvent, hein, ceux qui sont accusés de sorcellerie, c'est des gens qui en savent un petit peu plus que nous sur des savoirs qu'on ne maîtrise pas bien et qui nous font peur. Et bon, toujours est-il que la mère de Kepler est extrêmement tournée vers la nature, l'observation. Et c'est avec elle qu'il va observer notamment la comète de 1577, qui a énormément marqué les esprits, parce qu'elle était importante. Et, comment dire, je vous rappelle quand même que les comètes, par exemple ici c'est la tapisserie de Bayeux, qui relate l'attaque du château d'Harold par Guillaume le Conquérant, et signe de bon présage, vous avez une comète ici. Donc c'est très chargé dans l'imaginaire, surtout à l'époque populaire. Donc, premier émerveillement, tourné vers le ciel, et Kepler va en garder, donc évidemment, un souvenir incomparable. En plus, c'est avec sa mère, et donc il va pratiquer l'astronomie à la suite. Donc, il fait l'école allemande. Très vite, il est remarqué pour ses capacités un peu exceptionnelles. Il va bénéficier d'une bourse mise en place par le duc de Württemberg pour pouvoir continuer, puisque Kepler est dans un milieu assez modeste. Et bien, ses études vont se faire au séminaire inférieur d'Adalbert jusqu'en 1584. Puis au séminaire supérieur de Mühlbronn, et enfin le séminaire de Tübingen de 1589 à 1591, où il a à son programme de l'éthique, de la dialectique, de la rhétorique, du grec et de l'hébreu, plus le latin et l'allemand qu'il parlait déjà, ça fait déjà quatre langues, et l'astronomie, le physique et la physique. Son professeur d'astronomie et de physique est tout sauf un astronome lambda, c'est Michael Mestlin, dont on a rarement parlé. Donc je connais moi-même très peu de choses, j'ai juste perçu, mais je n'ai pas encore eu le temps de bien creuser ça, c'est un astronome extrêmement influent à l'époque. Il est notamment il échange notamment avec le Vatican pour la réforme des calendriers à l'époque, et Mestlin est écouté comme astronome de référence. Donc c'est tout sauf un astronome lambda, et il a la particularité aussi, donc vous savez qu'on est après Copernic, donc il y avait le géocentrisme, l'héliocentrisme avec Copernic, il y avait aussi le modèle de Tycho Brahe hybride, dont je vais reparler tout à l'heure, et Mestlin enseignait à ses étudiants les trois systèmes en leur disant, maintenant vous choisissez celui que vous préférez. Donc il était très ouvert, et il va, je veux dire, façonner Kepler avec un esprit ouvert. Très vite, il remarque que Kepler a un esprit tellement supérieur et excellent qu'il faut attendre quelque chose de lui de très spécial. Et ça va venir. Le temps. Donc Kepler, c'est premier ouvrage 1596, le dernier c'est 1628 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Dans les débuts de ce XVIIe siècle, vous avez l'anglais par exemple Francis Bacon qui écrit un nouvel organon. Alors nouvel organon, ça vient par référence à l'organon d'Aristote, le vieil organon. On va réformer les sciences, on va se libérer de tout un carcan. Et Bacon, alors j'ai tiré une phrase, mais il y en aurait plein d'autres à tirer. Nous ne devons pas chercher les sciences avec arrogance dans l'étroite cellule du génie humain, mais avec modestie dans le monde grand ouvert. J'ai l'habitude de dire que c'est une critique de Descartes avant l'heure, parce que Descartes, en matière de physique, hein, je ne parle pas des maths, de sa contribution en mathématiques, mais en matière de physique, Descartes a un petit peu trop oublié l'expérience et la nature. Pour deuxième exemple, qui va exactement dans le même sens, l'essayeur, Galilée, 1637. La philosophie est écrite dans ce très vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux. Je veux dire, l'univers. Et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans lesquelles on est vraiment dans un labyrinthe obscur. Donc, pas de science sans mathématiques. Et tous ces gens, enfin, pas Bacon, mais Kepler, Galilée, vont être des bons mathématiciens pour pouvoir développer leur physique. Donc, on est dans une perception très ouverte sur l'expérimentation, la connexion, et on va voir que Kepler a déjà ce souci de mettre ses théories en adéquation avec les observations. il nous faut repartir avec l'astronomie grecque, parce qu'il y a quelques petits points qui vont être importants pour la suite dans la discussion. Donc Claude Ptolémée, hein, c'est la synthèse de toute l'astronomie grecque, c'est le premier siècle après Jésus-Christ. Il fait la synthèse de l'astronomie héritée de Pythagore, Platon et Aristote pour les principaux, il y en a plusieurs, il y en a probablement d'autres. Et si on regarde bien la méthodologie qu'il se donne dans sa grande composition mathématique, eh bien on voit qu'en fait c'est une méthodologie, au moins dans telle qu'elle est posée, qui est assez moderne, puisqu'il nous dit, on commence par recueillir autant d'observations précises qu'il est possible. Ensuite, on va distinguer les anomalies du mouvement. Alors là, il me faut préciser ce que sont les anomalies. On est dans la perception aristotélicienne des choses, c'est-à-dire que les corps célestes, c'est près de Dieu. Dieu, c'est d'être parfait. Les corps célestes sont proches de lui, donc ils doivent être parfaits aussi. Et donc leurs mouvements doivent être parfaits. La figure géométrique la plus parfaite, c'est le cercle. Pourquoi ? Parce que chaque portion du cercle est égale à toute autre portion du cercle. Donc c'est un signe de perfection, en tout cas pour les aristotéliciens. Donc les mouvements célestes seront circulaires, uniformes. C'est un postulat. Et il faut qu'on se débrouille avec ça. Le problème, c'est que même déjà les observations à l'œil nu de l'époque sont suffisantes pour montrer que ce n'est pas un mouvement circulaire uniforme tout simple. Et donc, ils observent déjà donc, des anomalies par rapport au mouvement circulaire uniforme. Et ensuite, pour essayer de rester dans le paradigme des cercles uniformes, eh bien, ils combinent les mouvements circulaires uniformes, d'une manière que je vais décrire, pour rendre compte des observations, des phénomènes. Alors, la première chose, on est dans un système géocentrique. On va commencer par, parce qu'on sait que, les Grecs savent que la distance Terre-planète varie avec le temps. Donc, pour faire ça, on commence par excentrer le mouvement circulaire uniforme par rapport à la Terre. C'est ce qu'on appelle un excentrique. Et sur cet excentrique, eh bien, on calque une vitesse angulaire constante et la planète se circule sur le cercle à vitesse constante. Ça ne va pas suffire. Donc on va complexifier un petit peu le modèle. Plutôt que de faire tourner la planète sur l'excentrique, on va faire tourner le centre d'un deuxième cercle, souvent de diamètre plus petit, qu'on va appeler un épicycle, et la planète va se déplacer sur cet épicycle, là aussi à vitesse constante. Donc on voit bien qu'on commence à avoir une cycloïde par rapport à l'excentrique et un peu plus compliqué par rapport à la Terre. Ça ne va pas encore suffire pour décrire la variation de vitesse observée sur les trajectoires des planètes. Et là, on introduit quelque chose qui est un véritable subterfuge pour essayer de sauver le mouvement angulaire constant. C'est le point et coin que Ptolémée positionne sans justification à égale distance entre le centre de l'excentrique que naît la Terre et le centre de l'excentrique. En d'autres termes, le centre de l'excentrique est à la moitié de la distance Terre et coin. C'est posé, jamais justifié, et c'est comme ça pour toutes les planètes. Saura son importance quand on va revenir à Kepler. Et la vitesse angulaire est constante par rapport à ce point. Évidemment, on voit bien que ça veut dire que la vitesse angulaire par rapport au centre de l'excentrique, elle n'est plus constante. Donc c'est un moyen de un subterfuge pour rester dans le paradis. Et là, on introduit, on commence à multiplier des hypothèses pour arriver à garder, à sauver la théorie de base. Donc ça, généralement, ça ne sent pas très bon quand on commence à faire ça. Après, trouver empiriquement des lois, parce qu'on n'est absolument pas dans l'explication, on est dans la description. Et enfin, calculer les paramètres de ces mouvements pour composer des tas, puisque l'objectif de l'astronomie à l'époque, c'est de prévoir le mouvement des planètes à l'avance pour la navigation et les événements religieux qu'on planifie en fonction des positions bien déterminées de l'astre, des astres, ce qui nous permet de faire un lien entre la Terre et le ciel, donc avec Dieu. Et Ptolémée ajoute, mais l'astronome doit prendre les hypothèses qui peuvent convenir. C'est-à-dire que même avec tout ça, il y a des fois, ça ne marche pas encore et il va peut-être falloir faire quelques entorses à tout ce système. Donc ça, c'est l'héritage de l'astronomie grecque et dont Ptolémée fait une synthèse. Là, on arrive au début de la Renaissance et c'est la vision qui est encore en cours en Europe au début de la Renaissance. Donc ça, ce graphique vient de je ne sais plus de quel livre. Et on va le décortiquer un petit peu. Donc évidemment, au centre, on a la Terre. Avec ces deux sphères, une sphère de terre et une sphère d'eau un peu entremêlées dans le sens où la terre émerge des eaux. Donc on a une sphère de terre, une sphère d'eau un peu entremêlées. Ensuite on a une sphère d'air. Donc jusque là tout va bien. Ça se complique un peu parce que Aristote nous dit qu'il y a une sphère de feu autour. Et ça, alors ils appliquent ces quatre sphères à toutes les planètes Et ça, ça leur permet d'expliquer pourquoi les planètes et les étoiles brillent dans le ciel. C'est qu'il y a une sphère de feu qui les entoure. Et l'argumentation, c'est de dire, mais pourquoi on ne la voit pas, cette sphère de feu, nous ? Ah oui, mais c'est parce qu'on est à l'intérieur. Alors, ne me demandez pas comment il explique ça plus. Il n'y a pas d'autre justification. On ne la voit pas parce qu'on est à l'intérieur. Point. Et pour les autres planètes, on la voit parce qu'on est à l'extérieur. On est dans les incohérences de la physique aristotélicienne.
Cette sphère de feu, qui est autour des autres planètes, est-ce que ça donne, c'est ce qui donne la lumière de la planète ou c'est...
Oui, absolument.
D'accord.
À cette époque-là, on est encore dans la perception que, dans la compréhension que toutes les planètes, les étoiles, ont leur propre source de lumière. Il faut voir que c'est à peu près à l'époque de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci d'ailleurs contribue à ça pour réaliser que finalement les planètes, c'est la lumière du Soleil qui se réfléchit sur ces planètes et qui les rend lumineuses. Et Léonard de Vinci a des textes où, en fait, il explique la couleur légèrement bleutée que peut prendre la Lune parfois par la réflexion de la lumière du Soleil sur la Terre, qui est une planète bleue, comme on le sait. Donc là, il y a des beaux textes de Léonard de Vinci là-dessus, et c'est à peu près 1470 par là que ça commence à se comprendre. Donc là, on est encore dans la perception où il y a une sphère de feu pour toutes les planètes, etc. Bon, après, on va trouver la Lune. C'est bien l'image. C'est celle-là qui n'est pas l'image de la Lune. On ne sait pas bien. Mercure, bien sûr, Vénus et le Soleil. Je vous rappelle qu'on est dans une description géocentrique, donc l'ordre des planètes n'est pas celui qu'on a l'habitude d'avoir. D'ailleurs, d'un auteur à l'autre, parfois, ça peut varier, parce que la position entre Vénus, le Soleil et Mars, selon les moments, c'est pas toujours les mêmes. Enfin, bon, c'est un peu compliqué en ce système géocentrique. Donc ensuite, dans la description que je fais là, on va avoir Mars, Jupiter et Saturne. Et on s'arrête là pour les planètes à l'époque. La description n'est pas terminée. On a ensuite les étoiles, la sphère des fixes, et puis un ciel de cristal. On peut discourir longtemps sur ce que c'est que ce ciel de cristal. Et enfin, le prima mobile, le premier moteur, qui représente l'impulsion que Dieu met à tout le système pour le mettre en branle et le faire tourner. Dans la physique aristotélicienne, les planètes sont punaisées sur des sphères de cristal qui frottent les unes avec les autres pour que, sous l'action du premier mobile, tout tourne. Pourquoi il y a un neuvième ciel de cristal ? Alors là, c'est un héritage du pythagorisme qui voue un culte inégalé pour la tétractys, le nombre 10. La tétractys, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10, et ça vous fait un triangle équilatéral de côté 4. Donc c'est des symétries partout, donc c'est un nombre parfait, donc c'est l'image de Dieu, donc Dieu a fait le monde avec ça. Donc on rajoute le neuvième ciel de cristal, qu'on justifie tant bien que mal, mais c'est parce que Dieu a fait le monde avec le nombre 10. Point. Bon, pas très tout satisfaisant, et puis au-delà, on a Dieu, et évidemment, plus on se rapproche. Alors il y a des descriptions aussi qui vous mettent des sphères d'archanges, d'anges, enfin tout ça. Donc, ça dépend des descriptions qu'on prend, mais voilà. Pourquoi maintenant il est important de faire le lien et pourquoi on a la prépondérance d'Aristote, notamment dans toute la religion catholique ? Ça vient de Thomas d'Aquin, qui dit la chose suivante. Si nous résolvons les problèmes de la foi par seule voie d'autorité, nous posséderons certes la vérité, mais dans une tête vide. Donc il faut éduquer, donc il faut des référents. Et là il va prendre. Foi et mœurs, ce sera saint Augustin. Médecine, Galien, Hippocrate, et la nature des choses, ce sera Aristote. Et là, vous avez la sculpture d'Aristote sur la façade de la cathédrale de Chartres. Et c'est pour ça qu'on retrouve Aristote en lien avec toute cette culture catholique. Ça vient de Thomas d'Aquin. Donc, du coup, le clergé va s'associer à Aristote et à défendre la physique aristotélicienne. Alors, pas de manière aussi dure qu'on veut bien le dire, mais quand même, il y a un point qui vient de Thomas d'Aquin. Alors, première grande révolution entre guillemets, Nicolas Copernic, donc c'est 1543, publication de son livre, tout est à peu près dès 1520, mais Copernic est chanoine, donc très au courant de tout ce qui est un petit peu lié au point sensible de la religion par rapport à la description du monde, est un peu hésitant à publier. Et donc, on veut que ce soit sur son lit de mort qu'il ait finalement autorisé la publication de son livre. Qu'il ait vu l'exemplaire. Il réintroduit l'héliocentrisme. Il ne l'introduit pas, il le réintroduit. Il y a des anciens Grecs, comme Philolaos le Pythagoricien, Héraclite du Pont, Ecphantus, qui la font se mouvoir la Terre, alors pas tous de la même manière d'ailleurs, mais qui donnent un mouvement à la Terre. Il est bien aussi important de réaliser pourquoi, pour Copernic, c'est un gage de qualité d'aller citer des vieux Grecs. C'est qu'on est au début de la Renaissance. Au début de la Renaissance, pour faire court, en Europe, on sait à peine résoudre une équation du premier degré. Il faut se rappeler que les Grecs commençaient à résoudre des équations du second degré. Et que toute la culture, toute la science arabo-musulmane, elle, s'attaquait aux équations du troisième degré. Donc, quand les Européens redécouvrent les textes grecs, ils prennent une claque parce qu'ils ne comprennent pas. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'ils connaissent. Donc, citer les anciens Grecs, ça, c'est valeur de référence. Et c'est donc pour ça qu'ils s'appuient sur les anciens Grecs pour dire mais on va essayer de mettre le Soleil au centre du système solaire. Et pour avoir une description du mouvement des planètes. La motivation, c'est que à cette époque, le système ptoléméen ou aristotélicien, comme vous voulez, il arrive à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le mettre en adéquation avec les observations qui se sont améliorées en qualité. Dès qu'on touche un morceau, il faut tout rechanger et on ne s'en sort plus. Donc ça, c'est souvent le signe que la théorie, elle a fait son temps et qu'elle ne va plus aller très loin. Donc il va falloir faire des modifications profondes dans la description de ces mouvements planétaires. Et donc Nicolas Copernic va aller chercher ça dans les anciens Grecs, chez les anciens Grecs. Alors, il est prudent, il a fait une lettre au très saint père, le pape Paul III, dans laquelle il est assez clair sur sa position. Les pensées du philosophe ne sont pas soumises au jugement de la foule, parce que sa tâche est de rechercher la vérité en toute chose, dans la mesure où Dieu le permet à la raison humaine. Donc là, on voit déjà qu'il se range derrière la volonté de Dieu. Il prend déjà quelques précautions d'usage. Mais quand même, il va être encouragé dans sa position et dans la publication de ses œuvres par le cardinal de Capoue, Nicolas Schönberg, par l'évêque de Kuhn, Tiedemann Guiseux. Donc on voit que le clergé n'est pas réfractaire à cette époque-là, à ce qu'il y ait d'autres théories qui émergent, etc. Toutefois, il ajoute, si cependant il se trouvait des théologiens qui, bien qu'ignorant tout des mathématiques, se permettaient néanmoins de juger de ces choses, et, à cause de quelques passages de l'écriture malignement détournés de son sens, osaient blâmer et attaquer mon ouvrage, de cela je ne me soucie aucunement, et ceci jusqu'à mépriser leur jugement comme téméraire. Donc on voit bien la position qu'il a. Alors, quels sont les passages les plus souvent incriminés? Donc là, j'ai extrait ça de l'Astronomia Nova de Kepler, c'est 109, donc Kepler les discute. Donc vous avez le psaume 19, verset 5-7. Là-haut pour le soleil, il dressa une tente. Et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, vaillant, de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite. À sa chaleur, rien n'est caché. Kepler répond dans l'Astronomia Nova. Le chanteur de psaumes savait que le soleil ne sort pas de l'horizon comme d'une tente. Il estimait assurément que le soleil se déplaçait parce qu'il paraissait ainsi aux yeux. Donc là, on voit bien, et ça va être la position de la majeure partie des scientifiques de l'époque, il ne faut pas prendre les écritures littéralement. Ce sont des paraboles, des images pour susciter l'imaginaire, mais il ne faut pas prendre ça au sens littéral. Deuxième passage, le livre de Josué. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Aïalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Kepler répond, d'autre part, Dieu comprit facilement à partir des paroles de Josué ce qu'il voulait, et il l'accomplit par le mouvement arrêté de la terre, de sorte qu'il lui semble que le soleil s'était tenu immobile. Donc c'est juste une question de référentiel, de point de vue, et on change ça, et ça ne porte pas à conséquence tout ça. Un dernier point, et j'en arrêterai pour ici, l'Ecclésiaste, le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Et Kepler dit, qui ne voit que le soleil renaît chaque jour de l'Orient? Qui assurément ne juge que la fable de la vie est jouée perpétuellement, et que rien n'est nouveau dans les choses humaines? C'est pourquoi Salomon, par le rappel de ces choses que tous voient, fait songer à ce qui est négligé mal à propos par la plupart. En d'autres termes, ne vous fiez pas trop aux apparences. Et c'est ça le message que Kepler tire de ce passage. Ça va être c'est la position de Kepler, c'est la position de Copernic, ça va être la position de Galilée et un certain nombre. Et ils vont tous éviter d'aller, en gros, et c'est la position que je défends quand je fais mon cours d'épistémologie et les relations avec la religion. Vous avez la science qui est le domaine du connaissable, et et là on peut investiguer, on peut argumenter. Vous avez les textes révélés qui sont du domaine de l'inconnaissable, et là il n'y a pas d'argumentation, on y croit ou on n'y croit pas. Je ne sais pas si vous avez tenté des discussions de ce genre avec des gens non-croyants, croyants, enfin, selon la position que vous avez, ça tourne en rond. C'est on y croit, on n'y croit pas, et on reste sur ses positions. Ce n'est pas dans le domaine de l'argumentation. Les sciences, elles, peuvent être argumentées, démontrées. Donc, c'est deux domaines différents de la pensée humaine, ou de plus, si vous voulez, mais faire mélanger les deux, ça ne fonctionne pas pareil, ce n'est pas les mêmes règles de fonctionnement. Petite reconstruction du visage de Copernic par la police polonaise à partir de son crâne. Ça fait une image assez étonnante. Les choses mathématiques s'écrivent pour les mathématiciens. Donc c'est sur son lit de mort, ça c'est la légende. Et en fait, ce qu'il est important de signaler, c'est que sur l'ouvrage de Copernic, il y a une préface non signée et qui n'est pas de Copernic, mais qui est de Andreas Osiander, un théologien, qui écrit et qui affaiblit nettement la portée des écrits de Copernic. Il est suffisamment clair que cet art, simplement et totalement, ignore les causes des mouvements irréguliers des phénomènes célestes. Or, comme pour expliquer un seul et même mouvement, sauf parfois différentes hypothèses, l'astronome en adoptera de préférence celle qui est la plus facile à comprendre. C'est le fameux rasoir d'Occam, on prend les choses les plus simples pour expliquer. Le philosophe exigera peut-être davantage la vraisemblance. Aucun, cependant, ne saurait ni atteindre, ni enseigner quoi que ce soit de certain, à moins qu'il ne lui soit révélé par Dieu. Il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Donc c'est réduire finalement les hypothèses de Copernic à une représentation simple pour le calcul, mais en aucun cas à une vérité. Ce qui n'est absolument pas une position de Copernic. Copernic croyait en son système héliocentrique. C'était connu à l'époque. Alors ce qui est amusant, si vous faites un peu d'histoire des sciences, c'est que les quasiment contemporains ou successeurs directs de Copernic savaient parfaitement que cette préface n'était pas de Copernic. La preuve, donc, ce Giordano Bruno, savant, était, alors c'est un moine à l'origine, savant italien, dans le Banquet des Cendres de 1584, écrit par exemple, avec un style que vous allez comprendre pourquoi il va lui arriver quelques problèmes. Donc voici comment il qualifie la préface du livre de Copernic. Certaines épîtres liminaires accolées au livre par je ne sais quel âne ignorant et présomptueux. Comme s'il voulait apporter son appui à l'auteur en l'excusant, ou bien offrir aux autres ânes l'occasion de brouter quand même dans ce livre quelques salades et quelques baies, de crainte qu'il ne reparte à jeun. Le préfacier avertit en ces termes le lecteur avant qu'il n'entreprenne la lecture de l'ouvrage et l'examen de ses thèses. Bon, évidemment, s'il communique toujours sur ce terrain-là, il va avoir quelques problèmes, ce monsieur. Et il va en avoir. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on parle souvent du procès de Galilée. Le plus important et celui qui va vraiment cristalliser les choses, ce n'est pas le procès de Galilée, c'est le procès de Giordano Bruno. Parce que le procès de Galilée, c'est une espèce de mascarade. Finalement, ce n'est pas un faux procès. Giordano Bruno, ça va durer 8 années. Ce qui est complètement atypique pour l'époque, parce que l'Inquisition, d'habitude, est beaucoup plus expéditive. Au maximum un mois, c'était réglé, brûlé, terminé. Giordano Bruno est très influent. Il a visité quasiment toutes les cours de l'Europe. Donc il est connu, il a des soutiens parmi les puissants et les riches. Donc on ne peut pas faire avec Giordano Bruno comme on fait avec le simple hérétique qu'on brûle comme ça sur une place de village. Donc le procès dure 8 ans, ils essaient d'arriver à le faire revenir sur ces horribles paroles profanes. Je vais faire un mauvais jeu de mots. Giordano Bruno tient une tête brûlée et il va finir sur le rocher. Donc ils vont finir... C'est limite, je suis d'accord. Il va finir sur le bûcher et ça va être vraiment le point de départ. Alors pourquoi il finit sur le bûcher? Pas à cause de sa science. Giordano Bruno est le seul scientifique de l'époque à vouloir réformer la théologie sur des bases scientifiques. Et lui mélange science et religion. C'est pour ça que l'Église va s'inquiéter et va ne pas le laisser faire ça. Donc c'est pour ça qu'il est condamné. Et c'est pour ça qu'il est. Et c'est ça qui va tendre les relations entre les scientifiques et le clergé. Et le clergé savait qu'ils avaient beaucoup à perdre avec ça. Parce qu'évidemment, après, on fait un martyr, et puis c'est toujours le truc classique. Et ça va être le point de départ de la séparation entre science et religion. Alors qu'avant, c'était les mêmes qui faisaient la science et la religion. Mais c'est Giordano Bruno qui cristallise. Il faut savoir qu'en France, on le connaît très peu. En Italie, c'est l'équivalent d'un Descartes. En Italie, ça tombe toujours fleuri, et c'est le libre penseur qui a libérer les Italiens du joug de la religion. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important pour les Italiens. Donc voilà, donc il termine sur le bûcher, la langue est coupée. Bon. Civilité de l'époque. Petite intervention intéressante de Jean-Paul II, 31 octobre 92. Ainsi, la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de recherche qu'elle suppose, obligeait les théologiens à s'interroger sur leurs propres critères d'interprétation de l'écriture. La plupart n'ont pas su le faire. Il semble qu'on soit revenu un petit peu en arrière par rapport à cette position qui était finalement assez ouverte de Jean-Paul II. Nicolas Copernic, lettre au pape Paul III toujours. Donc, Copernic s'engage pour l'héliocentrisme. Donc, il explique que, étant posé les mouvements que j'attribue à la Terre, je trouverai enfin que si les mouvements des autres astres étant rapportés au mouvement orbital de la Terre, et que celui-ci était prêt pour base de la révolution de chacun de ces astres, non seulement en découlaient les mouvements apparents de ceux-ci, mais encore l'ordre et les dimensions de tous les astres et les orbes, et qu'il se trouvait au ciel lui-même une connexion telle que, dans aucune de ses parties, on ne pouvait changer quoi que ce soit sans qu'il s'ensuive une confusion de toutes les autres et de l'univers tout entier. En gros, passer de géocentrisme à héliocentrisme va simplifier la description des mouvements planétaires et va faire apparaître des lois simples, ce qu'on n'a absolument pas dans un système géocentrique. Et je vais vous montrer la plus évidente diapo de suivante. Copernic, je vous l'avais dit, l'écouen, c'est le subterfuge pour masquer qu'on n'a pas un mouvement circulaire uniforme. Et là, Copernic se présente comme un aristotélicien convaincu. Il veut virer les coins de l'astronomie parce que c'est aller contre les principes d'Aristote qui font qu'on doit avoir une astronomie avec des mouvements circulaires uniformes. Il ne peut se faire que le corps céleste simple soit mu d'une façon inégale par un seul orbe. En effet, ceci ne pourrait avoir lieu que par suite de l'inconstance de la vertu motrice. La vertu motrice, grosso modo dans notre langage moderne, c'est la force qui va être responsable des mouvements. Or, comme l'intellect recule avec horreur devant ces deux suppositions, il faut admettre que leurs mouvements égaux nous apparaissent comme inégaux. Il se fait donc que pour nous, les mouvements égaux des hommes nous apparaîtront, vus de distances différentes, comme des mouvements inégaux en tant qu'égaux. Pour lui, c'est si les mouvements planétaires nous apparaissent comme inégaux, ce n'est qu'un parce qu'on est dans un point de vue particulier. Et sa grande espérance, c'est, en passant dans un système héliocentrique, retrouver une description avec des mouvements circulaires uniformes. C'est ça son grand espoir. Donc révolutionnaire, peut-être pas complètement. Copernic fait tourner donc la Terre plutôt que les étoiles, et il utilise l'argument comme quoi, c'est moi qui le traduis dans les langages modernes, il y a moins d'énergie à dépenser pour faire tourner une petite Terre que l'immensité des étoiles. Donc c'est plus simple, ça va être plus plaisant pour l'esprit. Il utilise cette remarque-là à un moment donné. Alors, est-ce que le système est vraiment plus simple? Donc, comme je vous l'ai dit, on combinait les serres pour décrire l'ensemble des mouvements planétaires. Ptolémée en avait besoin de 40, Copernic va en avoir besoin de 34. Il me dira, on en gagne 6. C'est déjà pas mal. Par contre, il y a quelque chose qui est raté pour l'unité de la description, c'est qu'on a besoin de 7 cercles pour Mercure, qui se révèle déjà un peu retors à la description, 5 pour Vénus, 3 pour la Terre, 4 pour la Lune, et 5 pour Mars, Jupiter et Saturne. En d'autres termes, il n'y a pas de description unifiée du mouvement des planètes. Chaque planète doit être considérée comme un cas particulier, et un petit peu, quelque part, l'objectif d'avoir une description unifiée du mouvement des planètes, elle échoue. L'autographe, page autographe de Copernic avec son système héliocentrique, donc évidemment, à la périphérie, on a la sphère des étoiles qui sont maintenant fixes dans cette vision-là. Saturne qui fait une révolution en 30 années, Jupiter en 12 ans, Mars en 2 ans, la Terre en 1 an, Vénus en 9 mois, Mercure en 80 jours, et enfin le Soleil qui est presque au centre du monde. Bah oui, on avait besoin d'un excentrique pour décrire le mouvement du Soleil par rapport à la Terre. On fait le changement de repère, on se retrouve toujours avec un excentrique. Donc, c'est pas vraiment exactement au centre du monde. Pour Copernic, le Soleil n'est que le grand luminaire du système solaire, et il sert à l'éclairer, point. Aucun rôle dynamique, aucun rôle dans le mouvement des planètes, c'est juste une grande ampoule qu'on met au milieu du système solaire. On verra pourquoi j'insiste là-dessus tout à l'heure. Petit passage, Pierre de la Ramée, peu connu, donc il va avoir quelques problèmes aussi, ce monsieur. Tout ce qu'a écrit Aristote n'est que fausseté. C'est clair, on met tout à la poubelle. Ses écrits sont condamnés par édit royal du 1er mars 1544, mais bon, il est connu, etc. Levé de l'édit en 1547, grâce à un cardinal, au passage. Conversion au protestantisme vers 1560. Ça, c'est une position facile, c'est que à partir du moment où on est protestant, on sort des interactions avec le clergé, et ça permet un peu de passer à travers les difficultés avec le clergé. C'est pour ça que Kepler va passer à travers. Il est protestant, Kepler. Donc ça, c'est pas anodin. Malheureusement, Pierre de la Ramée est en France, il y a la Saint-Barthélemy, et il va pas survivre à la Saint-Barthélemy, et donc il va être assassiné par des deux ragages, enfin l'histoire veut que ce soit ça. Je n'ai pas de vérification de première main, donc entre guillemets. Hein. Bon, ce qui est important, c'est ce qu'il pense de l'astronomie. Il va militer pour une astronomie sans hypothèse, c'est-à-dire sans sphère, épicycle, excentrique, ni coin. Des hypothèses qu'on ne peut pas justifier et qu'il faut réformer tout ça. Parce que on a des théories existantes aujourd'hui, hein, avec des tas d'hypothèses qu'on ne sait pas justifier, mais que ça sauve des théories préexistantes. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on reste dans la vision aristotélicienne qu'il faut décrire tout ça avec des mouvements circulaires, ça ne marche pas, donc on rajoute des hypothèses pour arriver à sauver le postulat de départ qui évidemment est faux. Et puis à un moment, ça devient tellement aberrant que on va tout mettre à la poubelle et on va recommencer à zéro. Toutes les hypothèses sont des fabrications absurdes. Alors, de manière générale, de toute façon, toute hypothèse est une fabrication, qu'on soit bien clair. Les théories sont construites. Et là, bon, là, c'est un jugement sur les hypothèses aristotéliciennes. Et là, très intéressant aussi, mais c'est là, donc ça me fait une fin de l'introduction pour la suite, peut-être que l'une des écoles, célèbres écoles allemandes, où les mathématiques sont cultivées, produira-t-elle un philosophe et mathématicien capable de répondre à ce challenge ? Bon, ben là, il me servait sur un plateau la transition avec Kepler, qui vient d'une école allemande.
Alors, oui ? Encore une question pour faire avancer les choses. Si on parle d'un système sans hypothèse, sans cadre,
on peut pas.
On va construire les choses.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute théorie repose sur des hypothèses. On ne peut pas faire autrement. Toute la problématique ici, ça va être de modifier les hypothèses. Et donc, de comment les modifier. On avait déjà ça dans la méthodologie de Ptolémée, puisqu'on part des observations. On va modifier les hypothèses par l'étude des observations qui sont à notre disposition, le grand livre de la nature qui nous est ouvert devant nos yeux. C'est ça qui va nous amener à modifier les hypothèses. Oui.
Et concrètement, elles consistent en quoi les observations ? Qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi on n'arrive pas à mesurer à travers les positions successives une forme d'ellipse, par exemple ? Enfin, qu'est-ce qui empêche une observation ?
Alors, les observations sont faites à l'œil nu, ouais, avec des sextants, etc. C'est déjà suffisamment précis, vu les distances en jeu, pour que cette description par des mouvements circulaires uniformes ne fonctionne pas. Donc c'est ça qui amène à la combinaison des mouvements circulaires, etc. Et j'ai oublié la dernière partie de votre question.
Non, mais concrètement, qu'est-ce qu'on observe ?
Alors généralement, à cette époque-là, ils se contentaient de quelques points de mesure particuliers. Donc mesurer quand des alignements de planètes, etc. Mais il n'y avait pas de mesure systématique. Ouais. Le premier qui va faire des mesures systématiques, ça va être Tycho Brahe, qui, dès que le temps le permet, il mesure. Peu importe où se trouvent les planètes, si elles sont alignées ou pas, il fait des mesures. Et ça va être une collection de données absolument importante que Kepler va exploiter.
Peut-être pour compléter la question et la réponse, au niveau des alignements qui sont mesurés, c'est aussi le retour de cet alignement-là, donc le temps.
Exactement. Donc en fait, il partait sur le fait que pour faire un cercle, il faut 3 points, donc il prenait 3 points, puis terminé. Les mesures n'étaient pas de qualité énorme non plus. Hein. Donc, bon. Et en plus, ça on le voit notamment chez Kepler qui accuse beaucoup ses prédécesseurs de trafiquer les données. En gros, les astronomes à l'époque, ils faisaient comme quand on est étudiant, on a un point qui n'est pas bon, bon, on sait que la courbe doit être ça, donc on l'enlève et puis on remet le point sur la courbe et terminé. C'est pas une critique. Beaucoup de découvertes se font comme ça, il ne faut pas s'y tromper. Et toute la différence entre un mauvais et un bon scientifique, c'est de savoir quand il faut déplacer le point ou pas. Alors qu'est-ce qui guide ce choix-là ? Ne me demandez pas, je serai incapable de vous l'expliquer. Mais c'est ça. Celui-là, je le sens pas, je l'enlève. Et plein de découvertes, même récentes, hein, se sont faites comme ça. Et beaucoup de gens sont passés à côté découverte parce qu'ils ont tout gardé, qu'ils n'ont pas su voir que là, il y avait un problème expérimental. Donc, c'est un apprentissage qu'il faut faire, savoir trier ces données. Et puis aussi, que pour progresser, il faut se dire, ben, on va commencer par une première approximation dans la description, et puis les données qui ne marchent pas, on verra ça après. Ce qui est important pour un scientifique, c'est d'avancer. Ce n'est pas d'arriver du premier coup sur la théorie parfaite. Ça, ça ne marche pas. Donc, bon. Pardon ?
Je vais y venir.
On n'en est pas encore tout à fait là, on est en 1596, il nous reste 4 ans avant d'y arriver. Mystère cosmographique, premier ouvrage de Kepler. Kepler a alors 26 ans, il est à Graz, au sud de l'Autriche. Alors, on va regarder le titre parce qu'il est déjà très informatif sur la rupture qui est en train de se faire. Podrome, c'est un petit discours. Aux dissertations cosmographiques contenant le secret du monde. Alors là, tout de suite, ça c'est Kepler le mystique qui arrive. Ah oui, mais on va voir le secret du monde. Mais c'est pas ça le plus important, c'est la suite. Rappelez-vous, il faut extraire les pépites du fumier. Je le dis de manière très provocatrice, ça c'est le fumier dans lequel Kepler va cacher ses pépites. Pourquoi je dis ça ? Kepler est un héritier de cette tradition à l'époque, un peu héritier des alchimistes, où il faut cacher le savoir. Parce que le savoir, accéder au savoir, c'est se rapprocher de Dieu. Et ça, ça n'est autorisé qu'à ceux qui le méritent. Et Kepler fait partie de ces gens qui pensent ça. Il n'est pas le seul à l'époque. Donc, on ne va pas donner tout ce qu'on a compris comme ça. On va le cacher. Et puis, comprendront ceux qui voudront bien comprendre. Pour les autres, ils ne le méritent pas. Il y a d'ailleurs une lettre assez connue de Kepler à Galilée, où Kepler accuse Galilée de faire de la vulgarisation, que ça ne doit pas se faire comme ça, et qu'il faut arrêter, c'est dangereux. Donc, voilà. La deuxième partie, c'est celle-là qui est intéressante. Relatif à l'admirable proportion des orbes célestes, et là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, aux causes authentiques et propres du nombre des cieux, c'est-à-dire que Kepler prétend nous expliquer pourquoi il y a 6 planètes et pas plus. Vous pouvez chercher dans l'astronomie avant, il n'y en a aucun qui traite ça. De leur grandeur et de leur mouvement périodique. Et il va donner la cause des mouvements. Jusqu'à maintenant, toute l'astronomie s'est contentée de la description. Et c'est là où la rupture se fait. C'est que Kepler, et c'est pour ça que j'insiste sur Kepler physicien, Kepler va vouloir expliquer les mouvements. Démontrer au moyen des 5 corps réguliers de la géométrie, donc là il est encore très pythagoricien, hein, c'est les 5 polyèdres, je vais revenir. Mais il a 26 ans, il est encore jeune, Kepler, à ce moment-là. Premier ouvrage. Alors, la table des matières, pour donner un petit peu, qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce qui a amené Dieu à créer et selon quel plan ? D'où Dieu a-t-il tiré les nombres ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ah, là, ça devient intéressant. Quelle règle gouverne une masse si énorme ? Quelle règle ? Pourquoi Dieu a-t-il créé 6 circuits ? Pourquoi il y a 6 planètes et pas 7 ? Ou 8 ou 9 ou 10 ? Pourquoi Jupiter et Mars, qui ne sont pas dans les 2 premiers orbes, sont-ils séparés par un espace aussi vaste ? À l'époque, on savait déjà. Donc là, vous avez une représentation schématique du système solaire. Qu'entre Mars et Jupiter, il y a une très très grande distance. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour découvrir qu'en fait, il y a une ceinture d'astéroïdes qui ne sont absolument pas visibles à l'œil nu. Et donc, maintenant, on sait qu'il y a quelque chose entre Mars et Jupiter. Mais à l'époque, ce n'était pas connu et c'était apparemment inexplicable. Et donc, Kepler va essayer de répondre à cette question. Personne n'avait tenté de répondre à une telle question auparavant. Je vous dis, avant, on se contentait de décrire. Eh bien voilà, tout ce que Pythagore t'enseigne, Kepler est très pythagoricien, au moyen de ces 5 figures, il nous a montré par son exemple que nous pouvons voir renaître, après 2000 ans d'erreur, donc Kepler est très conscient de ce qu'il est en train de faire, pourvu qu'il y ait un Copernic, ce titre de meilleur observateur du monde. Donc, Kepler est très conscient que là, il s'attaque à un gros morceau. Alors, c'est polyèdre. Qui vont permettre à Kepler d'avoir une description des distances respectives entre les planètes. Quels sont-ils ? Ils sont connus des pythagoriciens. Donc le premier, c'est le cube, qui est associé dans la tradition pythagoricienne à la Terre, stabilité, propriété de la matière terrestre, et le cube est bien stable. Vous avez l'icosaèdre à 20 faces, l'eau, c'est la multitude de faces qui indique l'humidité. Ça, ce sont les justifications qu'on retrouve dans l'Astronomia Nova de Kepler, publiée en 1609. L'octaèdre, 8 faces, air convenable au regard s'il est suspendu dans les airs. On se dit, mais qu'est-ce que ça a de scientifique tout ça ? tétraèdre à quatre faces, feu, petit nombre de faces qui indique la sécheresse. Bon, on a quatre polyèdres réguliers, on a quatre éléments. Voilà d'où est l'origine des quatre éléments de la théorie pythagoricienne. C'est parce qu'il y avait quatre polyèdres réguliers. Et qu'avec ces volumes, eh bien, on faisait de la matière, et donc en agglomérant de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, eh bien, on arrivait à produire tous les éléments observés sur Terre. Première grande crise dans la physique pythagoricienne, découverte du dodécaèdre, cinquième polyèdre régulier. C'est de là que vient cette quête du cinquième élément. Il faut sauvegarder à tout prix cette théorie des polyèdres associés à des éléments. Donc on va parler d'une quinte essence, une cinquième essence. Et le moyen le plus simple de ne pas tout remettre en question, qu'est-ce qu'on fait ? On l'attribue à la matière céleste. Comme ça, ça permet de ne pas toucher au reste. Voilà comment on modifie artificiellement, là c'est facile de le dire a posteriori, une théorie pour que ça reste cohérent. C'est ce que certains physiciens font aujourd'hui, hein, avec certaines hypothèses, on pourra en parler si ça vous intéresse. Dodécaèdre 12 faces, ben c'est pour ça qu'on a 12 constellations, c'est pour ça qu'on a 12 mois dans l'année, etc. etc. Ça vient du dodécaèdre, qui est associé dans la tradition pythagoricienne à la matière céleste. Tout ça, c'est lié. Alors, qu'est-ce qu'en fait Kepler ? Eh bien, en fait, donc, Kepler sait déjà qu'il y a une variation de distance entre les soleils et les planètes. Il va considérer, donc, par exemple, je vais prendre Saturne, la distance moyenne. Sachant que Kepler sait parfaitement qu'il y a un aphélie, c'est-à-dire la distance la plus grande entre le soleil et la Terre, la planète considérée, et un périhélie qui est la distance la plus courte. Et il prend les distances moyennes. Et il arrive à placer, sur la base des observations, le cube entre le rayon moyen, ou la sphère de rayon moyen de Saturne et Jupiter. Et ça marche pas trop mal. Il en met ensuite le tétraèdre entre Jupiter et Mars, le dodécaèdre entre Mars et la Terre, et ensuite l'icosaèdre, l'octaèdre entre la Terre et Vénus, et puis Vénus et Mercure. Alors j'ai fait une petite ligne ici, où on place la Terre, à laquelle il va donner une position spéciale. Alors pour des raisons planète habitée, on en a discuté un peu avec Eric Chappelle, peut-être pas sûr que ce soit le bon argument. En tout cas, il veut lui donner une place spéciale, et pour ça, a posteriori, il va distinguer les primaires, les polyèdres réguliers primaires, des polyèdres réguliers secondaires, ce qui lui permet de placer la Terre au milieu, enfin à une position particulière. C'est une vision très égocentrique, c'est justifié, on va le voir comment, très contestable, mais c'est a posteriori. Beaucoup d'historiens, à mon sens, se trompent en disant que Kepler a construit ça de manière inductive. Non, 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 non. Kepler, il est parti des données, il a trouvé l'empilement qui fonctionnait, et après, il l'a justifié. C'est comme ça qu'il faut lire Kepler. Et donc, voilà, deux classes de polyèdres. Alors, vous avez les primaires. Donc, les primaires, c'est les premiers, c'est ceux qui sont proches de Dieu, donc les plus parfaits. Et le plus de tous, c'est le cube, le plus stable. Dieu est stable, permanent. Ensuite, vous avez le tétraèdre, et puis ensuite, le dodécaèdre. Et en fait, ils sont faits de faces de différentes formes, et à chaque fois, chaque vertex partage trois faces. Et ça, ça définit les primaires. Bon. Alors, on va voir après comment il va définir les secondaires. Donc, le cube, c'est le divin, c'est le plus proche de Dieu. Alors ensuite, le tétraèdre, il est un peu moins divin, parce qu'il est caché dans le cube. Et cacher le divin, c'est encore être beaucoup moins divin, parce qu'on fait de l'ombre à Dieu, donc ça, c'est pas bien du tout, donc ça va être la propriété du dodécaèdre. Et les secondaires, l'icosaèdre et l'octaèdre, ils sont secondaires parce qu'en fait, ils ont des faces triangulaires tous les deux, mais chaque vertex partage 4 ou 5 faces. Si vous trouvez une logique dans tout ça, vous me le dites, je suis preneur. Pour moi, ça fait partie de cet enrobage que Kepler met pour masquer ce qu'il faut extraire de ces textes. Mes amis, la connaissance se mérite, à vous de trier. C'est comme ça que je lis Kepler. Je peux me tromper, mais il y a une vision très cohérente derrière. Parce qu'avant, on ne comprend rien. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup d'années à ne pas comprendre Kepler jusqu'à ce que je tombe sur ce petit texte que je vous ai lu au début, sur l'astrologie, où il faut extraire les pépites du fumier. Je dis, ah, c'est ça le truc. L'astrologie, fille de l'astronomie, donc on va lire l'astronomie pareil. Et puis là, on évacue tout le reste, et on garde la physique, et là, j'espère vous convaincre qu'on a plein de belles choses. Bon, alors ça, c'est la description qu'on connaît tous. Vous pouvez refaire aujourd'hui avec les distances connues et faire cette construction, ça marche. C'est en adéquation avec les observations. C'est pas farfelu du tout. Ça marche. Bien sûr, c'est conjecturel. C'est-à-dire que bon, ça marche, c'est un coup de bol. Mais ça marche. On ne peut pas dire que c'est en désaccord avec les observations. Et comme il n'y a que 5 polyèdres réguliers, ça ne peut séparer que 6 planètes. Donc ça justifie le fait qu'il n'y ait que 6 planètes. Et Kepler a répondu à sa question, entre guillemets, dans une perception très aristotélicienne. Oui ?
Juste un commentaire. Heureusement peut-être pour Kepler, Galilée finalement n'a pas découvert Uranus ou Neptune parce qu'il pouvait le faire avec la lunette. Au niveau de la perception, il n'a pas fait cette découverte-là. Comment réagit Kepler ? Parce que du coup, il y aurait une 7e planète à placer, on n'aurait que 5 polyèdres.
Alors, Kepler a montré par ailleurs que quand sa théorie aboutissait à une inadéquation avec les observations, il la mettait à la poubelle. Dans l'Astronomia Nova, il fait une première théorie qui est, donc parce que Kepler avait la notion des incertitudes d'observation, il fait une première théorie qui est à 2 fois le domaine d'incertitude. Il dit, mais si je ne suis pas dans le domaine d'incertitude, donc je mets tout à la poubelle, je recommence. Alors, probablement que ça aurait été un peu douloureux pour lui, mais je pense qu'il aurait été jusqu'au bout de cette logique-là. Il a toujours montré que ce qui primait, et ça c'est l'héritage de Tycho Brahe, les observations avant tout. C'est aussi l'héritage de Ptolémée, sauf que Ptolémée, bon, il fait ce qu'il peut. Mais Tycho Brahe, c'est l'observation au centre de la démarche. Et ça, c'est peut-être le seul héritage que Kepler va avoir de Tycho Brahe, c'est que... Et Kepler a un respect absolument... inconsidéré pour les observations de Tycho Brahe auxquelles on n'a pas le droit de toucher. On ne modifie pas une observation de Tycho Brahe. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il serait revenu sur... S'il avait été convaincu de la véracité de l'observation, il aurait dit, bon, je jette. Il l'a montré dans d'autres cas.
C'est exceptionnel en soi parce qu'en fait, arriver à cette vision des polyèdres dans les orbites, c'est un travail considérable parce qu'on a une représentation d'abord en 2 dimensions au niveau des orbites et dans cette représentation de tension il faut voir un volume.
Alors Kepler,
donc ça a été un travail très important.
Ah mais il a passé du temps.
Le fait de dire bon, j'ai travaillé tant de temps là-dessus et puis voilà, c'est quelque chose que je vais dire, c'est vraiment quelque chose qui est important à
alors à souligner, ça. Oui, mais en principe, en tout cas, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Mais je suis quand même chercheur, c'est qu'on apprend toujours, même si on se plante, on apprend toujours quelque chose. Et que c'est ça le plus important. Après, je veux dire, quand on fait un peu d'histoire des sciences, on sait que les théories, certaines théories en tout cas, n'ont qu'une durée de vie limitée. Donc on sait que ce n'est pas la vérité qu'on est en train de décrire, c'est une vision à un moment donné qui est la meilleure possible, point. Donc si on a devant nous une évidence comme quoi il y a une observation qui contredit, eh ben, on change. Il y a des cas dans la physique moderne où, par exemple, la description de la lumière, ondulatoire, corpusculaire, puis finalement, bah, c'est un peu des deux, et puis on est toujours à la quête d'avoir une vision bien claire de ce que c'est que la lumière. Donc, on n'a pas fini le chemin, là. Donc, ne soyons pas trop prétentieux. Il faut être humble devant la nature. Hein. C'est un peu l'héritage de la Renaissance. Hein.
Non, mais l'effort... moralement, c'est le côté moral que je voulais souligner.
Mais c'est pour ça que des scientifiques refusent complètement que leur théorie soit un peu soit mise à mal. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un comme Planck qui a dit que une théorie finit d'avoir des opposants quand ses opposants meurent. Donc, faut attendre une génération ou deux, et puis ça ira mieux après, parce que ceux qui les ont créés ne sont plus là. Oui, c'est parce qu'il y a des blocages psychologiques énormes. Je veux dire, c'est aussi pour ça, je crois que c'est Bachelard qui disait que les scientifiques, de manière générale, contribuent au développement d'une science pendant les 20 premières années de leur carrière et s'opposent au développement de la science pendant les 20 années suivantes. Parce qu'en fait, ils ont du mal à remettre en question ce qui leur a permis de se promouvoir.
C'est le cas de Galilée et d'Einstein, pour récemment, qui ont un peu de mal à expliquer la physique.
Alors pourquoi Galilée ?
Il me semble qu'il y avait des explications par rapport au marais, des choses comme ça qui étaient décrites, non pas à la fin de sa vie.
Alors, Galilée a fait une théorie des marées qui est fausse, mais Galilée a fait des très bonnes choses. Enfin, la mécanique de Galilée date de 1638, donc 4 ans avant qu'il décède. Et c'est là qu'il comprend la composition des mouvements, la loi d'addition des vitesses et tout ça. Donc, attention à...
Quand vous citez Einstein, exemple.
Einstein, c'est autre chose. Alors là, Einstein, effectivement, là, on peut s'interroger, puisque durant les 20 dernières années de sa vie, il n'a pas été productif. Et qu'il est l'un des très rares cas à être comme ça.
Il était un peu à l'écoute même des progrès de la physique quantique, qui
était en plein essor. Et bon, ça, c'est un autre débat que j'ai... Je préfère rester sur Kepler. Vous allez me pousser là où j'ai pas envie d'aller. Alors, Kepler nous dit, oui.
D'un point de vue chronologique, oui. Quand Kepler a conçu ses systèmes géométriques, est-ce qu'il avait déjà commencé à travailler avec Tycho ?
Non, on y arrive. C'est 1600 Tycho. Et là, on a 1596.
Parce qu'il faut peut-être voir aussi que le temps a passé entre ces premières constructions.
Ah, bien sûr.
C'est surtout
ce qui est vraiment capital, c'est l'accès aux données de Tycho. Ça, c'est vraiment le point clé. Kepler nous dit, je joue moi aussi avec des symboles. Voilà, ça y est, une fois encore, on pose les choses. Mais je joue sans oublier que je joue. En d'autres termes, n'oubliez pas, cher lecteur, que je joue. En effet, on ne démontre rien avec les symboles. On ne peut rien révéler à l'aide des symboles géométriques de la philosophie naturelle. Les choses déjà connues ne sont qu'adaptées. C'est un agrigue de lecture, là. À moins que l'on ne démontre par des preuves certaines qu'il ne s'agit pas uniquement de symboles, mais bien de descriptions des modalités par lesquelles deux choses sont liées et des causes de ces liens. Là, il vous donne la grille de lecture. Attention, il y a des choses, c'est des petits symboles, je m'amuse, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est quand ça va être, vous n'allez pas pouvoir argumenter contre. Par exemple, les polyèdres primaires et secondaires, on peut dire, oui, bon, c'est farfelu. Je pense que Kepler ne va pas se battre énormément pour défendre ça. Par contre, ce qui va suivre, je pense que c'est autre chose. 1596, et c'est à peu près le dernier point qu'on va mentionner, parce qu'il faut que j'avance, je suis en retard. Les corps lourds, donc amotrices. 1596, le jeune Kepler pense, comme tous les scientifiques de l'époque, que les corps célestes sont animés de volonté, de se mouvoir, etc., comme des êtres vivants. On verra que ça ne va pas durer très longtemps. Les corps lourds, ça c'est plus intéressant, les corps lourds recherchent le centre de la Terre, non parce qu'il s'agit d'un point, mais parce qu'ils recherchent le corps de la Terre. Et comme ce corps est rond, il en résulte que les corps lourds qui le recherchent se dirigent vers le milieu, et ainsi vers le centre. Au point que, si la Terre avait une figure sensiblement distordue, les corps lourds ne tendraient plus, depuis n'importe quel point, vers un point unique. Ben là, il a compris déjà que c'était une histoire de volume, il est en train de comprendre le barycentre, et que ce n'est pas des points matériels, des points mathématiques qu'il faut considérer, mais des objets en volume. Les corps des planètes dans leur mouvement autour du Soleil ou dans leur translation ne doivent pas être regardés comme des points mathématiques, mais tout simplement comme des corps matériels dotés, pour ainsi dire, d'un point. Donc là, on est dans de la physique. Ce n'est pas un mathématicien qui nous parle. 1621, deuxième édition de son premier ouvrage de mystère cosmographique. Si tu remplaces le mot âme par le mot force, tu as le principe même sur lequel est fondée la physique céleste. Lorsque j'ai réfléchi que cette cause motrice s'affaiblissait avec la distance, je vais revenir beaucoup là-dessus, et que la lumière du soleil aussi s'atténuait en s'éloignant du soleil, j'en vins à conclure que cette force était quelque chose de corporel, sinon au sens propre, au moins d'une manière équivoque, tout comme nous disons que la lumière est quelque chose de corporel, c'est-à-dire une spécie qui provient d'un corps, mais qui est immatériel. Je vais développer ce point qui est extrêmement important. Donc là, il parle de force. Donc il y a une force entre le Soleil et les planètes. 1604, Kepler fait une théorie de l'optique. C'est lui qui donne les fondements de l'optique géométrique moderne. Il fait une théorie de la lunette, pas à cette époque-là, après. C'est lui aussi qui comprend que la lumière s'atténue en rapport inverse du carré de la distance à la source. Il le démontre en disant simplement que la lumière se propage selon une surface sphérique, et donc que l'intensité diminue dans le rapport inverse de la surface, et donc on est 1 sur R2. Donc vous voyez où on va aller juste après, avec cette force qui émane du Soleil, épitome de l'astronomie copernicienne. La lumière s'atténue selon le carré des distances, c'est-à-dire selon le rapport des surfaces. Pourquoi donc la vertu motrice, c'est-à-dire la force qui émane du Soleil qui va faire se mouvoir les planètes, ne s'affaiblit-elle pas dans cette proportion plutôt que dans la proportion simple? Et là, c'est là un point de physique absolument admirable, qui pourtant va le conduire à la fausse conclusion, c'est que Kepler, il a les observations qui lui indiquent quoi ? C'est que globalement, tout le mouvement des planètes se développe dans un plan qu'on appelle un plan moyen, qui est l'écliptique. Et là, Kepler se retrouve face à la difficulté à justifier que cette vertu de rotation se propage dans tout l'espace et non pas dans un simple plan. Et ça a son importance parce que si c'est dans un espace, c'est une sphère et la loi est en 1 sur R2. Si c'est dans un plan, c'est un cercle et la loi est en 1 sur R. Donc dans un cas, maintenant on le sait, il a la bonne réponse, dans l'autre, il a la mauvaise réponse. Enfin, mauvaise. Donc il se dit, ben non, c'est dans un plan, il n'y a pas moyen. Et continue. Même si la force émanant du corps solaire est atténuée selon la longitude et la latitude, alors, oui, j'en profite pour dire que je vous avais décrit dans la vision de Copernic qu'il y avait une relation forte entre la période de révolution et la distance au Soleil. Hein ? Plus la distance croît, plus la période augmente. Kepler se dit, mais comme mon Soleil il est responsable du mouvement, il est lui-même en rotation. Et dès 1596, Kepler écrit que le Soleil est en rotation. Ça ne sera découvert par Galilée qu'en 1610, avec l'observation des taches solaires. Donc selon la longitude et la latitude, et ce pas moins que la lumière, cette atténuation contribue néanmoins à l'affaiblissement de la vertu motrice selon la longitude. Parce que le mouvement local que le Soleil donne à la planète se développe seulement selon la longitude, donc selon l'écliptique. Non seulement parce que c'est la même que les parties du corps solaire sont mobiles, mais encore que ce sont vers les pôles que le corps solaire est immobile. Alors ça, il écrit ça en 1618, parce que là, il y a eu les études de Galilée et de Christoph Scheiner et de Thomas Ariot sur les taches solaires, et ils ont découvert la rotation différentielle du Soleil. C'est-à-dire que les taches solaires se déplacent plus vite au niveau de l'équateur, qui est le plan d'écliptique, qu'au pôle où elles sont immobiles. Donc là, Kepler se dit, mais il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de propagation dans les trois directions, il n'y a vraiment que la propagation dans un plan unique. Donc ça va être un cercle, donc ça va être en 1 sur R. Et c'est sur la base d'observation qu'il conclut à la force en 1 sur R. Et donc ça, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais c'est une démarche de physicien moderne. Évidemment, il lui manque des tas de choses. Pour arriver à ça, il faut les mouvements angulaires, etc. Enfin, il manque des tas de choses qui seront découvertes un siècle ou deux. Alors là, c'est une représentation de Christoph Scheiner de 1630, où vous avez les taches solaires. Ils ont déjà vu que les taches solaires apparaissaient le long de l'équateur et s'éloignaient vers les pôles et qu'elles tournaient plus vite au niveau de l'équateur, donc, dans le plan d'écliptique. Bon. Donc là, on voit quand même que Kepler est en train de construire quelque chose qui est autre chose qu'un truc mystique, comme on veut bien le dire. Nous y arrivons. Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'est quelqu'un d'extrêmement important du point de vue de l'observation. Bon, ça, c'est la petite histoire. Il a voulu défendre l'astrologie de manière un peu trop virulente. Il a pris un coup d'épée, il a perdu son nez. Et il est allé chercher en Inde, où il y avait des compétences à fabriquer des prothèses lors d'ablation du nez, parce que c'était une peine fréquemment appliquée en Inde pour certains délits. Et donc, il s'était spécialisé dans les prothèses nasales. Donc, Kepler va avoir une prothèse nasale indienne. Ça, c'est la petite histoire. Important, c'est qu'il est le premier à construire un observatoire en Europe. Parce que ce n'est pas le premier observatoire du monde, hein, loin de là. Mais en Europe, c'est le premier. Et il fait ça sur l'île. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ven, je ne sais pas comment. C'est entre, si je ne me trompe pas, la Norvège et le Danemark. C'est une petite île où il y a quasiment que des paysans, c'est très peu peuplé. Et quand même, Kepler, Tycho Brahe va faire fabriquer, construire un observatoire plus que somptueux. Bon, je vais passer sur les tailles, parce que je suis déjà pas très avancé. Donc, bref. Le point important, c'est qu'il fait, donc, il fait construire des instruments. Pourquoi il va gagner en qualité des observations ? À l'époque, ils observaient avec des mesures qui faisaient quoi ? Une dizaine de centimètres. Tycho Brahe dit, mais si je veux une précision plus grande, je fais des instruments qui vont faire 1 mètre ou 10 mètres. Et je gagne comme ça un facteur 10 sur la précision de mes observations. Vu qu'il est dans des zones particulièrement humides, il enterre ses instruments sous des coupoles pour éviter d'avoir des fluctuations, des conditions hygrométriques, parce qu'à l'époque, c'est quand même beaucoup en bois, ces instruments-là. Donc, il ne faut pas que ça varie trop avec les conditions climatiques. Le système hybride de Tycho Brahe, rapidement. Tycho Brahe, pour des raisons de mécanique, enfin, je passe un peu les détails, n'arrive pas à comprendre que la Terre puisse être en mouvement. Donc il laisse la Terre au centre, il fait tourner le Soleil autour, et il fait tourner toutes les autres planètes autour du Soleil. Donc c'est un système hybride. Alors Kepler va être très très méprisant par rapport à ça. Il dit ouais, bon, ça c'est un artifice. C'est comme pour tracer un cercle, je fais tourner mon stylo ou je fais tourner la feuille. Ça revient à ça. Ça change pas de problème. C'est pas viable. Donc Kepler refuse radicalement de travailler là-dessus. Alors, Kepler, avec son mystère cosmographique, bah, vu les questions qu'il aborde et comment il les traite, tout de suite il est visible. C'est-à-dire que Kepler a déjà une certaine réputation avec ce mystère cosmographique. Et notamment Kepler, qui lui sait la qualité des observations de Tycho Brahe, envoie son mystère cosmographique à Tycho Brahe, qui le lit, qui est assez impressionné, etc. Donc quand Kepler, alors Tycho Brahe entre-temps est arrivé à Prague pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, Tycho Brahe voit ce jeune Kepler arriver, comme Tycho Brahe n'arrivait pas à faire quelque chose de ses données, il se dit, lui, il va y arriver. Et là, va se mettre une relation un peu bizarre entre Tycho Brahe et Kepler. C'est comme, vous savez, entre un maître qui voit un étudiant briller arriver, qui se dit, oh là là, lui, il va me dépasser, il va me griller. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est mon aura qui va en prendre un coup, donc je ne vais pas le flinguer parce que ce serait vraiment dommage, mais je ne vais pas l'aider trop non plus parce que je veux garder ma place. Enfin, bon, c'est des relations très très compliquées au point que Kepler s'en va, revient, enfin bon, bref. C'est un peu tumultueux ça. Qu'est-ce que Kepler apprend de Tycho Brahe? Quasiment rien. À mon sens, parce que je vous dis, l'astronomie de Tycho Brahe, c'est pas un théoricien, c'est un observateur. Vous m'avez posé la question de comment il récupère les données. Donc là, c'est quand il arrive là. Très vite, heureusement pour Kepler, Tycho Brahe meurt. Tycho Brahe avait quand même fait suffisamment bien les choses pour que Kepler hérite de son poste. Vous voyez, donc il lui menait une vie de chien quand il est de son vivant, mais il a fait quand même en sorte qu'avant de mourir, ce soit lui qui récupère le poste. Et là, alors, il y a toute une histoire entre les descendants de Tycho Brahe et Kepler. Kepler est obligé de ruser, de récupérer les cahiers d'observation. Enfin bon, bref, il arrive à mettre la main sur les cahiers d'observation et les garder pour lui. Mais c'est rocambolesque, l'histoire. Et là, donc là, Kepler, il a enfin des données de qualité, et c'est là-dessus qu'il attaque vraiment la suite. Alors, bon, dans son legs, dans son testament, Tycho Brahe lui demande de regarder les mouvements planétaires dans son système, hein, dans son système hybride. Bon, Kepler, il n'a rien à faire de tout ça. Il se base sur l'héliocentrisme et on y va. Donc, on arrive enfin à l'ouvrage, le premier ouvrage majeur de Kepler, donc l'astronomie nouvelle, fondée sur les causes ou physique céleste. C'est le titre donné par Kepler. Clair, on est en train de faire une physique des mouvements célestes. Et il appelle ça ma longue guerre contre Mars, parce que l'astronomie ANOVA, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quasiment exclusivement la trajectoire de Mars. Et c'est dans cet ouvrage qu'on va avoir la loi des airs, première loi de Kepler, et non pas la deuxième, et ensuite la loi des ellipses. Donc la loi des airs, rapidement, hein, donc, comme je vous l'ai dit, il y a une variation de vitesse au cours de la trajectoire. Quand la distance se réduit, la vitesse accélère, et quand la distance augmente, la vitesse se réduit, de telle manière que la surface balayée en un temps donné est toujours constante. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la loi des airs de Kepler. Bon, après, comment on se démontre, etc. C'est autre chose. Et enfin, il démontre que, il essaye des ellipses, il essaie des cercles, des machins et tout, et bref, il arrive au moment. Donc, Kepler fait des démonstrations par l'absurde. C'est-à-dire que pour arriver à démontrer que c'est bien une ellipse, il va vous présenter, alors je ne sais plus combien il y en a, 5 ou 6 démonstrations avec d'autres figures, et il dit, bah voilà, ça ne marche pas. Et puis là non plus, ça ne marche pas. Et vous voyez, si je fais avec une ellipse, ça marche. Donc vous serez bien convaincu que ça va être une ellipse. C'est le principe de démonstration de Kepler. Parce qu'il est incapable de démontrer ça autrement. Il faut voir les mathématiques qui sont en place à l'époque de Kepler. Il n'y a pas grand-chose. On commence à faire de la trigonométrie, à utiliser les sinus, les cosinus, mais ça commence seulement, quoi. Et ce qui m'intéresse là de vous présenter, c'est comment Kepler justifie le mouvement des planètes. Kepler, le physicien. Le Soleil doit émettre des spécies, des particules, dont l'action faisait se mouvoir les planètes qui les recevaient. Plus nombreuses dans le voisinage de leurs émetteurs, moins nombreuses à mesure qu'on s'éloigne du Soleil, les spécies étaient en accord avec une simple remarque tirée de l'observation. Les planètes, lorsqu'elles sont plus proches du Soleil, vont plus vite, tandis que lorsqu'elles en sont plus loin éloignées, elles ralentissent leur cours. Il fallait donc bien que le mouvement eût sa source dans le Soleil. Alors, le point important, c'est que le Soleil, pour Kepler, n'est responsable que du mouvement circulaire des planètes. Le côté elliptique, alors pourquoi ? Parce que ça, c'est commun à toutes les planètes. Le côté elliptique, c'est propre à chaque planète, dans le sens où l'ellipsité, c'est-à-dire l'écart au cercle, dépend de chaque planète. Et là, Kepler se dit, mais puisque ça dépend de chaque planète, le Soleil ne peut pas en être l'origine. L'origine, c'est la planète elle-même. Donc il va aller chercher une deuxième force qui émane de la planète pour justifier les écarts d'ellipsité entre les différentes trajectoires planétaires. Et qu'est-ce qu'il a à sa disposition comme autre force possible à l'époque ? Ben, il n'y en a pas 50 000, c'est le magnétisme. Le premier vrai ouvrage sur les aimants, c'est William Gilbert, qui le fait en 1600. Alors il faut savoir que l'Astronomia Nova est fini de rédiger en 1605. Gilbert publie ça en 1600, donc Kepler n'a pas mis longtemps à s'approprier l'ouvrage de Gilbert et à en faire quelque chose. Et qu'est-ce que fait Gilbert ? Alors, il a en tête d'expliquer la boussole. Et donc, il taille des sphères dans de la pierre d'aimant, et il s'amuse à mettre des petits barons pour simuler la boussole. Et là, à sa grande surprise, il remarque que selon la position sur la Terrella, comme il appelle ça, l'aimant est soit tangent, soit perpendiculaire. Parce qu'à l'époque, une force, c'était en ligne droite. Et là, on a une force qui peut faire une inclinaison. C'est quoi ? Donc voilà, il dit. Donc, alors, en A, donc on est où c'est tangent, la Terre est là, c'est sa pierre d'aimant, maintient et soulève au du sol 2 onces, c'est-à-dire 28 grammes de fer solide, mais est encore incapable d'ériger un morceau de fer pesant 2 grammes, c'est-à-dire 0,065 grammes. C'est-à-dire qu'en gros, il prend un corps massif, c'est tangent, il en prend un tout petit, léger, et il n'arrive pas à le mettre perpendiculairement. Ça revient systématiquement. Donc, c'est une force qui fonctionne très bizarre. Et ça, ils n'arrivent pas bien à comprendre. Ceci ne serait pas ainsi si la verticalité provenait d'une force d'attraction. Donc, c'est une force d'une autre nature. Et là, ça intéresse Kepler, parce que ça permet d'expliquer pourquoi, ça va lui permettre d'expliquer pourquoi les ellipsités changent et sont dépendantes de chaque planète. C'est pas la même nature que l'attraction qui vient du Soleil, etc. Et donc on retrouve dans l'Astronomia Nova de Kepler la figure un peu à la manière de Gilbert, et il va expliquer comment ça marche. Alors, il prend en A la position où c'est tangent, et ici où c'est perpendiculaire. Chez Kepler, le bas c'est toujours le périhélie et le haut c'est toujours l'aphélie. Et il nous dit, voilà, par sa rotation et le flux qui en émane, le Soleil fait se mouvoir la planète de A vers B. Donc ça, c'est le Soleil qui est responsable de ça. Le Soleil fait tourner la planète autour de lui. Par contre, la force magnétique issue de la planète va faire varier la distance, comme ça fait varier l'orientation des aimants à la surface de la Terre. Et il dit, voilà, l'hémisphère ami, alors ami, les épaules ami et opposées, hein, ami c'est ceux qui se rapprochent, opposés c'est ceux qui se repoussent, se tournent vers le Soleil et donc ça va rapprocher la planète du Soleil. Jusqu'à l'attraction la plus forte qui est lorsque l'aimant est perpendiculaire. Et ça va, l'attraction, le rapprochement va s'atténuer jusqu'au moment où ça va être complètement relâché, où ça va être à nouveau tangent. Et de l'autre côté, au lieu d'avoir les pôles qui se rapprochent, on va avoir les pôles qui s'opposent. Alors si on regarde bien dans le détail, ça ne marche pas, mais bon, peu importe. Et du coup, ça va éloigner la planète pour revenir à l'aphélie. Et donc là, vous avez une force magnétique qui est spécifique à chaque planète et qui va donc expliquer, à la manière de Kepler, les différences d'ellipsité qu'il observe contre chaque planète. Vous le prenez comme vous voulez. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a plein d'historiens des sciences qui se gaussent. Oui, Kepler a fait n'importe quoi, il a mis une force magnétique entre la Terre, et bon, il se marre de ça. Je regrette, vu ce qu'il avait à sa disposition, moi je trouve ça plutôt brillant. Ça sent qu'il nous fait une explication. C'est le premier à nous donner une explication des mouvements. Je veux dire, dans quel domaine de la physique avons-nous, pour la première théorie, la bonne théorie ? C'est quasiment aucun. Donc il fait ce qu'il a. Et ce qui est important, c'est pas le résultat, mais la démarche. Et là, la démarche, vous avez votre position que ce Kepler a, vous avez le même résultat quasiment. Vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est ça qui est important de réaliser. Le problème des historiens des sciences, c'est qu'il faut toujours se replacer dans les connaissances de l'époque. Il ne faut pas juger avec l'arrogance de nos connaissances modernes. Sinon, on se plante, on ne comprend rien du tout. Pardon ? Oui, le contexte, parce que oui, il y a la métaphysique, on est bien d'accord. Donc voilà. Il nous reste un dernier point à aborder, si vous me permettez de l'aborder, ou je peux arrêter là si vous trouvez que c'est trop long, c'est comme vous voulez. Le deuxième ouvrage majeur de Kepler, Les harmonies du monde, où on a la loi, la troisième loi de Kepler. Les temps périodiques de deux planètes quelconques sont précisément raison des racines carrées des cubes de leur distance moyenne au Soleil. Et on a le carré de la période sur le cube de la distance égale constante. Et puis on prend les données de Kepler et puis on voit que c'est vrai à 3%. Et puis tout le monde conclut, ah voilà, Kepler exulte quand il a découvert cette troisième loi. Vous avez compris la position où je tiens, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont rien compris, parce que c'est pas ça du tout que Kepler voulait. Les harmonies du monde. C'est-à-dire que je veux une description unique pour toutes les planètes. Ce à quoi avait échoué Copernic. Alors certes, ça marche pour toutes les planètes, mais ça ne m'explique pas le mouvement des planètes. Kepler, il veut expliquer. Il veut une théorie globale sur l'ensemble des planètes. Et c'est après que ça vient. Alors, plan, encore une fois, des harmonies du monde. Sur la construction, alors j'ai oublié le S. Donc c'est les harmonies du monde et pas l'harmonie du monde. Sur la construction des figures régulières, bon, on revient sur les polyèdres, donc on retartouille. Sur les congruences des figures régulières, alors je n'ai pas lu ça. Pour moi, c'est le fumier, hein, je suis clair. Sur l'origine des proportions harmoniques, etc. Et puis ça devient intéressant au chapitre 5. Sur l'origine commune des excentricités, diamètre et temps périodique. Ah, voilà ce que Kepler voulait. Elle est là. C'est là que ça va être intéressant. Alors on revient. Kepler n'est pas le premier à faire une description musicale des planètes. Claude Ptolémée lui-même fait un harmonica où il regarde, par exemple, comparaison entre le mouvement longitudinal des planètes et une mélodie continue, montant et descendant en hauteur, où la plus haute note correspond au point culminant et la plus basse à l'apparition et la disparition de la planète. Les variations des mouvements issus des variations des distances sont corrélées avec trois genres d'harmonie, bon, etc. Il faut voir que tout ça, c'est que ça vient de Pythagore, encore une fois. Vous savez sûrement la légende qui dit que Pythagore a commencé à comprendre comment fonctionnait la musique en voyant un forgeron travailler, puis remarquant que les marteaux de tailles différentes donnaient des notes différentes. Puis il a commencé à faire fabriquer des marteaux un peu spécifiques avec des rapports sur les poids et tout ça. Et puis il a fait une théorie de la musique comme ça. Première théorie mathématisée de la nature. Et là, on arrive au Moyen-Âge. Quelle est la théorie mathématique qui existe pour décrire le mouvement de la nature ? La musique. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc Kepler, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, essayons. Et voyons, de toute façon, il n'est pas le premier. Les influences, Platon dans le Timée. Aristoxène dans les éléments de musique. Ptolémée dans l'harmonica, je viens d'en parler. Boès, 480-526, des institutions de musicales. Jordanus de Némor, arithmétique, musique, etc. Et puis enfin, donc, Vincenzo Galilée, le père de Galilée, qui était musicien. Donc voilà un peu les influences majeures. Alors, dans les premiers chapitres, il vous fait de la théorie de la musique, etc. On va passer tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer qu'il y a deux conceptions héritées de l'Antiquité. La première chez Cicéron, alors il y en a sûrement ailleurs, mais je l'ai trouvé chez Cicéron. Le son émis par la Lune, corps céleste tournant le moins vite, est le plus grave. Alors que la sphère des étoiles, qui tourne le plus vite, émet le son le plus aigu. Donc là, on place les notes en fonction de la vitesse. Deuxième conception, chez Pline, la note dépend de la distance. La distance Terre-Lune est évaluée à un ton, et les planètes sont ensuite étagées selon une gamme montante. Donc, oui, c'est pas nouveau tout ça. Boès. Tout d'abord, on ne peut parler de musique sans poser l'existence des différentes espèces connues à ce jour comme postulat. Elles sont en fait au nombre de trois, la musique du monde, la voix humaine et la musique instrumentale. Je vous fais remarquer quelle est la première, la musique du monde. Ensuite viennent seulement la voix humaine, le chant et la musique instrumentale. La première, la plus importante, c'est la musique du monde. La première produite par l'univers se manifeste dans le ciel lui-même, dans l'union des éléments, dans la variété des saisons. Alors, qu'est-ce qu'on a hérité de tout ça? Un octogone. Et je place la Terre et puis les corps célestes connus autour, en fonction de leur distance. Alors là, je suis dans une vision géocentrique, hein, parce que c'est très vieux ces histoires. Donc, j'ai la Lune, si je ne me suis pas trompé, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et là-dessus, bah, je vais mettre, donc là c'est l'hypothèse de Pline, une note de musique en fonction de la distance à la Terre. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pas pour la Terre, elle est au repos. Il n'y a pas de musique. C'est une espèce de truc qui vaut. Et à partir de là, alors en musique, il y a une progression harmonique extrêmement courante, qui est donc toujours utilisée aujourd'hui, c'est la progression par carte. Et ça, ça vous fait enchaîner, par exemple, Do, Fa, Si, Mi, etc. Et donc vous avez une récurrence sur l'ensemble des planètes. Et là, vous retrouvez le calendrier, les jours de la semaine. Si on part de dimanche, Sunday, le jour du soleil, eh bien ensuite, alors faut prendre les cartes à l'envers. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers, je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé ça. Mais si on suit la progression par carte à l'envers de la logique musicale, eh bien ensuite on va, le soleil, on va ici, on prend à l'envers. Donc, on part du soleil, on va à l'envers, on tombe sur la lune, Monday, le jour de la lune. Ensuite, on va à Mars, mardi, et ainsi de suite, et on trouve donc mercredi, Mercure, etc. Et donc c'est de là que ça vient, cette vision-là sur une vision hybride entre musique et etc. Donc voilà, donc on retrouve, c'est pour ça que l'ordre apparent n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment ils ont choisi l'ordre des jours de la semaine? Ben voilà, c'est lié à la musique qui est mise dessus. Robert Flood, un Anglais important à l'époque, avec qui Kepler va échanger parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a un point sur lequel ils sont d'accord, c'est que la connaissance, on s'élève vers Dieu. Je voulais dire, Kepler n'était pas le seul. On part des sens, l'imagination, le rationnel, l'intellect, l'intelligence et le verbe, et on se rapproche de Dieu en s'élevant. Ne plus chercher Dieu à travers sa parole, donc là on voit la scission qui se fait entre les écrits et la nature, mais dans, par son œuvre, la nature. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant, ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher la science dans les textes révélés. Autre figure d'importance dans cet ouvrage de Robert Flood, cet instrument, ce chevalet avec cette corde tendue. Alors vous voyez, c'est Dieu qui règle la tonalité de tout ça. Hein. Et ici on retrouve la terre, l'eau, l'air et le feu. Et puis après on va avoir les planètes, alors dans une vision géocentrique. Et on va retrouver donc la Lune, Vénus. Donc là il est plutôt sur des notes qui dépendent de la distance. Encore c'est l'option prise par Pline au départ. Donc vous voyez, tout ça c'est dans l'air du temps et Kepler est de très loin pas le seul à faire ça. Alors, on revient à Kepler, maintenant qu'on a bien donné le contexte. Il nous reste à appliquer les harmonies que nous avons précédemment décrites, donc c'est les quatre premiers chapitres, dont je vous fais grâce, au cosmos en trois autres livres, dont le premier attribuera les harmonies à Dieu, le créateur des cieux, le deuxième à la nature, la directrice des différents mouvements, et le troisième à l'homme, le contrôleur de sa voix, et ainsi pour finir au travail de la création, qui étant le premier, pardon, et le plus parfait de tous. Chapitre 5, ce que j'ai dit, hein, que les positions dans le système ou les notes des gammes musicales et les types de mélodies, majeures ou mineures, ont été exprimées dans les mouvements planétaires apparents aux observateurs du Soleil, pour ainsi dire. Et Kepler prend position, les harmonies ne sont pas liées aux distances, mais au mouvement, donc à la vitesse. Kepler a la meilleure description de la variation de vitesse sur les trajectoires. Et donc c'est à la vitesse qu'il va attribuer une note. Donc là, il suit Cicéron. Et donc, il exprime ça en arc, par unité de temps. Alors, et il donne donc le périhélie. Et donc, il a les deux bornes, au périhélie et à l'aphélie, puisque c'est là où sont les vitesses, sont respectivement les plus rapides et les plus lentes. Et il vous donne donc c'est une manière d'exprimer la vitesse, hein, si on ramène un arc à un temps de constant. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on ne sait pas diviser une distance par un temps. C'est bien plus tard, même après Newton, hein, qu'on va commencer à faire ça. Ça se fait 1710. C'est Pierre Varignon, un Français, qui commence à bien décrire ce que c'est qu'une vitesse, une distance divisée par un temps. 1710. Newton ne sait pas faire ça. Donc voilà. Et là, Kepler se dit, bon, je ramène tout un octave. Donc il divise par deux jusqu'à ramener toutes les vitesses sur un octave donné. pouvez faire les calculs, vous retombez sur les résultats de Kepler. C'est toujours pareil. C'est en adéquation avec les observations de l'époque. Alors, bon, je vous fais grâce de tous les calculs. Donc, vous voyez, donc là, là, il divise par 2 puissance 7, 2 puissance 5, etc. pour tout ramener sur le même octave. Et là, il obtient les rapports entre vitesse angulaire pour construire une gamme majeure qui, de ce que j'ai pu trouver, est proche de la gamme de Zarlino. À deux petites exceptions près, c'est qu'il n'y a pas de phare et il y a une différence dans le rapport de la dernière note. Donc voilà, il arrive à faire coller tout ça avec les théories musicales de l'époque. Et donc là, ça c'est dans les harmonies du monde, hein, on a des portées avec des lunettes, des notes. Et on voit que là, ça correspond à la vitesse à la félie de Saturne, ici à la félie de Jupiter, là, il n'y a pas de correspondant dans le système solaire, périhélie de Saturne, etc., etc. Et donc, il construit ainsi une gamme de sol majeur avec ses vitesses, ses extrêmes sur les vitesses. Et en partant du périhélie de Saturne, il va construire la gamme de sol mineur. Donc, en utilisant d'autres... Et là, à quoi arrive Kepler quand il fait ça? C'est qu'avec une seule théorie musicale, il englobe la description de toutes les planètes. Et c'est sa manière à lui de justifier que le mouvement des planètes est régi par un principe unique. Il n'y a pas 50 000 trucs, etc. Et c'est par ça qu'il exulte. C'est-à-dire, ça y est, j'ai enfin trouvé une théorie unificatrice. Et on le sait bien, c'est ce qui a conduit Einstein, notamment, dont on a parlé tout à l'heure, dans l'impasse pendant 20 ans, qui voulait à tout prix cette théorie unique où il unifiait toutes les forces. C'est à ça que Kepler vise, et qu'il parvient avec son bagage, avec ses connaissances, et qu'il parvient, et c'est en adéquation avec les observations. Vous ne pouvez pas dire c'est faux, vous faites les calculs aujourd'hui, vous trouvez le même résultat. Et donc, on a ainsi la musique des sphères, qui est décrite ici, où, évidemment, en fonction de l'excentricité, la planète joue plus ou moins de notes. Donc Vénus, qui a l'excentricité la plus faible, il y a moins de variations de vitesse, donc elle ne joue qu'une seule note. La Terre, elle en joue deux. Ensuite, on a Jupiter qui va en jouer trois. Saturne en joue trois aussi. Mars, alors, parce que là, on voit bien, bon, ils ont des excentricités différentes, mais ils jouent le même nombre de notes. Et Kepler nous dit, mais la différence n'est pas audible à l'oreille. Donc on ne fait pas la différence à l'oreille entre ceux-là, donc ça marche. Mars, donc la planète la plus excentrique, facile, enfin avec des observations de qualité, donc on joue 5. Et puis Mercure, avec sa grande excentricité, elle va jouer plus d'une gamme. Oui ?
Est-ce que quelqu'un convaincu du résultat, ça donne l'impression de quelqu'un qui est satisfait d'avoir relevé un challenge très difficile, de faire couler une théorie comme il avait récupéré sa théorie génétique, qui est...
Ah oui,
mais... passionné par la démarche et le jeu, comme il disait lui-même, que d'arriver à une certitude absolue. Enfin,
mais comme je vous l'ai dit, Kepler est ancré sur les observations. S'il y a une observation qui casse, il va laisser ses certitudes. Ce qui lui importe, c'est d'être en adéquation avec l'observation. Et c'est bien pour ça qu'il fait ça avec les théories qu'il a à l'époque disponibles. Il faut voir qu'il n'y a pas de machine à calculer, que tous les calculs se font avec les logarithmes qui sont créés 10 ou 15 ans plus tôt. Kepler manipule tout ça, c'est des milliers de pages, personne n'a jamais refait les calculs de Kepler. Je crois qu'ils sont disponibles, je ne sais pas où, mais personne ne les a jamais refaits. Alors, maintenant, il reste ouvert à un musicien de dresser sa propre conclusion sur le monde, avec lequel chaque planète s'exprime le mieux, maintenant que les extrêmes lui ont été assignés. La Terre chante mi-famille, de telle manière que des syllabes, vous pouvez penser que la misère et la famine ne règne en notre maison. Non, pas d'humour. Maintenant, il y a besoin à Uranie d'un grand son, tandis que je monte par l'escalier harmonique aux pensées les plus élevées, où le vrai archétype de la fabrication du monde repose et est préservé. Suivez-moi, musicien moderne, et consacrez-lui vos arts, inconnus de l'Antiquité. Durant ces derniers siècles, la nature, toujours prodigue envers elle-même, vous a finalement apporté, après une incubation de 2000 ans, les premiers ouvrages de la complétude universelle. Universelle. Et c'est là-dessus qu'exulte Kepler. C'est pas sa troisième loi. Alors, je dis pas qu'il la néglige, mais c'est là qu'est le cœur de ce qu'il est vraiment fier. Par vos harmonisations de voix, variées à travers vos oreilles, elle a soupiré d'elle-même. Comme elle est en son sein le plus profond à la pensée humaine, la fille la plus aimée de Dieu le Créateur. Maintenant, 18 mois après la première lumière, 3 mois après le jour de vérité, mais seulement quelques jours après que le pur soleil de cette admirable contemplation ait commencé à briller, rien ne me retient. C'est mon plaisir d'apporter une frénésie inspirée, c'est mon plaisir d'enseigner aux hommes mortels avec le remerciement candide que je vole le vase d'or des Égyptiens pour en construire un tabernacle à mon Dieu, qui est Kepler croyant, loin, si loin des frontières de l'Égypte. Si vous me pardonnez, je m'en réjouirai. Si vous enragez contre moi, je le supporterai. Voyez, le sort en est jeté, j'écris le livre. Qu'il soit lu par le peuple du présent ou du futur ne fait pas de différence. Laissons-le attendre son lecteur durant une centaine d'années. Dieu lui-même n'a-t-il pas attendu 6000 ans un contemplateur de ses œuvres ? Bon, là, il ne se sent plus, on dirait aujourd'hui. Donc là, ça y est, il a atteint le Graal, il a la connaissance, il a trouvé cette théorie unificatrice, universelle pour le mouvement des planètes. Et c'est marrant parce qu'il parle d'un siècle, et c'est à peu près un siècle après que Newton arrive pour transformer les résultats de Kepler, parce que c'est extrêmement important dans les Principia Mathematica de Newton. Le livre 3 n'est basé que sur les trois lois de Kepler. Sans Kepler, pas de Newton. C'est clair. L'épitaphe qu'il a écrit lui-même, « J'ai mesuré l'intensité des cieux, je mesure à présent les ombres de la terre. Mon esprit descendait des dieux, ici repose ma poussière. » Je vous remercie. Donc, Kepler dans le texte, hein, parce que beaucoup de choses sont issues des textes. Vous trouverez, je pense, peu de présentations comme ça de textes de Kepler. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que... Oui.
Kepler connaissait les coniques, certainement. Parmi les trois types de coniques, l'ellipse, c'est la seule conique fermée. Or, il y a d'autres trajectoires que les coniques qui sont des courbes fermées. Est-ce que l'idée de l'ellipse vient venue d'un seul jet?
Kepler, c'est un peu particulier, parce que la manière dont Kepler rédige, comme je l'ai dit, c'est qu'il va commencer par vous montrer plusieurs essais qui seront infructueux pour vous convaincre, finalement, que l'essai, le dernier, va être celui-là qu'il faut prendre. Donc, Kepler n'écrit pas comme il trouve, contrairement à ce que je pensais au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment son processus de démonstration par l'absurde, hein, par l'erreur, qu'il convainc le lecteur. Donc, il commence par décrire des ovales, des choses et des choses comme ça. Il montre que ça ne marche pas. Il dit, mais finalement, bon, bah, il n'y a que l'ellipse. Je ne pense pas qu'il mentionne... Je n'ai pas souvenir qu'il mentionne les coniques. Les textes ne permettent pas de répondre s'il va directement sur l'ellipse ou pas. Ce qui me laisse à penser que ce n'est pas le cas, c'est que vous avez deux foyers sur une ellipse. Et pour Kepler, deux foyers, ça doit vouloir dire deux corps à mettre au foyer. Parce que, comme il veut tout justifier, vous avez un cercle, vous avez un centre, donc vous ne mettez qu'un seul corps. Mais normalement, il y a deux foyers sur une ellipse, alors vous faites comment? Sachant que le corps va être à l'un des seuls des deux foyers. Donc je pense que Kepler n'a pas commencé par l'ellipse. Maintenant, c'est pas... J'ai pas lu assez dans le détail encore les textes et tout ça pour bien savoir si c'était la première. Je pense pas que ce soit la première hypothèse qu'il ait faite. Mais je suis à peu près sûr qu'il parle pas des coniques. Donc ça ne répond que partiellement à votre question. Mais il a en tout cas essayé d'autres figures, ça c'est sûr. Et il montre que seule l'ellipse convient.
Parce que les coniques étaient connues.
Oui, je sais bien. Mais. Je regarde, mais là, de tête, je n'ai pas souvenir d'avoir vu les coniques. Donc, c'est pareil, hein, comme il faut fouiller, on fait vite de passer sur un truc. Hein. Je n'ai pas trouvé ça une seule fois, hein, non plus. Hein. Oui.
Oui, je reviens à une question très, très naïve. Vous avez bien présenté cette période de la Renaissance comme un peu le démarrage des sciences, très tout en puisant, bien sûr, chez les Grecs principalement. Et c'est vrai que ce divorce entre science et croyance, là, c'est là qu'il s'opère. On observe, on expérimente, petit à petit, on sent bien cette construction. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné en essayant d'observer, en me disant comment ils ont pu trouver cet ordre des cinq planètes. On peut comprendre que les autres, vous voyez, Saturne, Soleil, Mercure, Vénus, etc. La simple intuition, bien sûr, entre Mercure et puis Vénus, on sait qu'elle passe devant le Soleil. Là encore, passons. Mais pour les autres, comment on arrive à étager cet ordre qui, parmi tous les savants, on retrouve toujours ce même ordre? J'ai pas vu beaucoup d'erreurs. Et ma deuxième question, je crois que c'est chez Clairaut qu'on le retrouve dans un échange avec Galilée, quand ils estiment un petit peu, avec erreur soit, mais enfin, on peut les excuser pour l'époque, à plusieurs milliers de lieues, la distance de la Lune, puis les autres aussi, comme ça, comment font-ils pour en arriver là? Est-ce qu'on a des traces là-dessus?
Alors là, vous me prenez sur mon point faible, c'est que je suis absolument pas un praticien de l'astronomie. Donc là, je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre sur cet aspect-là. Je n'ai aucune idée de comment ils estiment les distances. C'est quelque chose que je n'ai jamais regardé, ça.
L'idée de parallaxe est venue beaucoup plus tard.
Enfin, c'est Tycho Brahe qui l'a.
De parallaxe?
Oui. Ah, d'accord. Parce que Tycho Brahe, quand on commence, parce que quand l'héliocentrisme arrive, Tycho Brahe, qui est quand même un bon observateur, se dit, ben, on doit avoir un effet de parallaxe. Il fait la mesure, évidemment, il n'a pas les moyens qui lui permettent d'avoir une mesure concluante. Donc il dit, maintenant, il n'y a rien au niveau des parallaxes. Donc, il n'y a pas de mouvement. Ça fait partie des arguments qu'il donne pour s'opposer au mouvement de la Terre. Et ce sera effectivement qu'au début du 19e, alors justement, on se posait la question, je crois que c'était 1835 ou 1850, je ne sais plus bien, mais c'est très tard que ça se fait, cette mesure des parallaxes. Donc ça, c'est clair. Maintenant, non, là, honnêtement, je j'ai pas creusé ce point-là.
La question des périodes.
Oui. Oui, mais ça veut dire qu'on a déjà bien compris qu'on est dans l'héliocentrisme et que ça fonctionne.
Enfin, je veux dire que cette connaissance-là était suffisamment répandue pour qu'il y ait une espèce d'unanimité là-dessus, sur l'éloignement des planètes.
Mais dire comment ils avaient une estimation des distances, c'est ça que je ne sais pas répondre. Alors, je ne sais pas si...
Oui, j'ai un début de réponse. En fait, dans un modèle géocentrique, on peut pas mesurer, on peut pas estimer. Et en fait, on avait vaguement fait une des estimations de vitesse de déplacement des planètes pour les ordonnées, mais pourquoi tout le monde a admis ça, je ignore. Par contre, à partir du moment où on place le Soleil au centre du système, là, il y a une méthode qui est dite de Copernic. Alors, j'avais déjà demandé à des historiens, c'est un peu flou. Est-ce que Copernic le procède, c'est juste après Copernic, ça, j'ai pas eu encore bien la réponse, mais en tout cas, à partir du moment où on a le Soleil au centre, par des positions particulières de planètes, on va trouver des relations d'alignement et de triangles rectangles pour les planètes inférieures qui vont permettre de connaître les rapports des planètes les unes par rapport aux autres. Et pour les planètes supérieures, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est simplement avec la trigonométrie, on y arrive assez facilement. Donc là, on a simplement les rapports, on n'a pas les distances. Et ensuite, tout le travail qui va être fait donc, par Richer, etc., ça va être d'essayer de mesurer un de ces écarts. Parce qu'à partir du moment où on a un écart en fait, entre deux planètes, on peut mesurer toutes les autres.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une triangulation. Ça me revient maintenant. Il faut un
triangle rectangle supérieur. Il faut une conjonction et puis une quadrature. Enfin, c'est bon, expliqué comme ça, ce serait un peu délicat. Mais en prenant 5 minutes avec des bons schémas, c'est un exercice qu'on peut donner très facilement. Mais par contre, c'est vrai, il faut une précision au niveau des mesures, des observations, pour avoir un résultat relativement bon.
Il a été dit, il me semble avoir lu, que Kepler avait utilisé 180 mesures de Tycho. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour...
Je sais que j'ai été surpris qu'il n'en utilise pas tant que ça, parce qu'il n'utilise pas tout. Ça, c'est clair. Et maintenant, 180, ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'utilise pas tant, ça, c'est clair. Parce que c'est pareil dans les... Je n'ai pris que les ouvrages finaux, donc qui sont l'astronomie novale et la Nantes, tout ça, c'est pas décrit.
C'est quand même assez fascinant d'imaginer que comment est-ce qu'il a fait pour arriver à voir la constante, le carré de la période.
Ah, mais il a fait plein d'essais.
Le cube du demi-grand axe, mais enfin, comment est-ce qu'il a fait, quoi?
Ce qu'il faut bien voir, c'est que là.
Ah oui, pas de réponse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que,
Kepler, la loi de T carré sur D cube, c'est pas le premier essai. Hein. Il en a fait 3 au moins avant. Et le problème de Kepler, c'est que changer les puissances, c'est pas anodin, parce qu'il faut les justifier après. Parce qu'il faut faire la physique derrière. Donc il faut. Donc, et dans la dernière loi, il commence à mentionner que l'interaction avec le Soleil dépend du volume de la planète. Et donc là, on voit les interactions gravitationnelles qui arrivent au grand galop. Il commence à dire, mais oui, la puissance de la force, de l'action du Soleil sur la dépend de la taille de la planète, etc. Et, enfin, bon, y a tout un, c'est pas anodin pour Kepler de changer une puissance. Parce que ça, il le fait. Hein, c'est comme ça qu'il commence par dire, oui, mais c'est la loi, c'est pas ça, c'est ça. Mais après, pour lui, il faut tout expliquer. Ah mais il y a, je vous dis, il y a, je crois, 1000 pages de calcul qui traînent ou quelque chose comme ça. Quoi. C'est épouvantable. Donc oui, non, c'est un calculateur acharné. Hein. Non, mais c'est assez représentatif de ce qu'il. Absolument, on est bien d'accord. C'est-à-dire que on a toujours l'habitude de donner le résultat, mais oui, il y a, et puis c'est souvent. On essaie, ça ne marche pas, on jette, on recommence. Et donc tout ça, c'est. Et personne ne refait jamais tous ces calculs-là. Et enfin, c'est toujours passé la plupart du temps sous silence.
C'est assez empirique.
Ah, c'est complètement empirique. C'est complètement empirique. C'est bien pour ça qu'on est, toujours dans une première démarche empirique et on a une justification a posteriori. C'est pour ça que Kepler a toujours des théories en adéquation avec les observations. Après, les interprétations, les justifications ne sont pas toujours les bonnes, mais les calculs, il n'y a pas à tortiller. Si vous les refaites, c'est vous trouverez la même chose. D'ailleurs, Newton utilise les 3 lois de Kepler et ça marche. Hein. Enfin, plus ou moins.
Et c'est pour ça, par rapport à ce travail-là, tout à l'heure, j'ai essayé de souligner le fait que si Galilée avait pu découvrir une autre planète, enfin, moralement, avoir passé autant de temps de calcul, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est très, très dur pour une personne. Hein.
Il y a des cas où des gens finissent en dépression. Hein. Il y en a, des scientifiques qui voient leur théorie mise à la poubelle du jour au lendemain, ils ne supportent pas toujours. Hein. Il y en a, dans l'histoire, il y en a. Hein. Donc, oui. Mais Kepler, je sais pas, une espèce de moteur particulier qui fait qu'il recommence, c'est pas grave, on recommence. Parce que sur la dernière loi, il y a 3 versions. Hein. Entre la première, c'est 1596, je crois qu'il y en a une dans l'astronomie noire en 1609, et la dernière qui est la correcte, c'est 1619, hein, 10 ans après. C'est ça qui est intéressant, c'est que le côté physique, si vous regardez bien, il n'y a personne qui le relève. Mais vraiment personne. Il se disait à l'époque que s'il y avait 3 personnes sur Terre qui avaient lu Kepler, c'était le bout du monde. Fort heureusement, il y en a eu un qui était le bon, qui était Jeremiah Horrocks, un jeune astronome anglais, et qui transpose les lois de Kepler pour la Lune. Parce que Kepler, bizarrement, n'a pas appliqué ses lois à la Lune. C'est Jeremiah Horrocks qui le fait. Il fait donc une théorie de la Lune qui était pourtant importante pour la navigation, etc. C'est Jeremiah Horrocks qui fait ça, et c'est par Jeremiah Horrocks que Newton va récupérer l'héritage de Kepler. Parce que Jeremiah Horrocks est republié au début des années 1660. Jeremiah, J-E-R-E-M-I-A-H, Horrocks, H-O-2-R-O-C-K-S. Et c'est ça la clé qui fait le lien entre Kepler et Newton, parce que Newton lui-même n'a pas lu Kepler, soyons clairs. Mais Horrocks fait une espèce de synthèse, fait la théorie de la Lune avec les lois de Kepler, et en dit tout le bien qu'il en pense, parce qu'il avait auparavant essayé une théorie d'un Belge dont j'ai oublié le nom, ça ne marchait pas, et puis non, c'est Kepler qu'il faut faire. Les travaux de Horrocks, qui décède très tôt, je crois qu'il décède à 26 ou 27 ans, sont republiés en 1660. Alors, j'ai oublié par qui, je crois que c'est Robert Hooke, mais j'en suis pas sûr, par la Royal Society de Londres, où Newton était, et c'est comme ça que... Parce que c'est un des grands premiers astronomes anglais, hein, Jeremiah Horrocks. Donc il est promu par l'Angleterre, et c'est ça qui donne l'emprise de Newton sur les données de... Enfin, la méthode... Enfin, les résultats de Kepler, plus exactement. Mais je ne suis pas sûr que Horrocks et bien décortiquer toute cette physique qu'il y avait. Si on s'en est rendu compte. Si vous regardez comment c'est décrié aujourd'hui dans l'histoire des sciences, on méprise complètement Kepler pour cette espèce de force magnétique. Ben oui, bien sûr.
Et en fait, quand on y réfléchit, ce qui ressort quand on creuse, ça devient réaliste. Ça devient
bien sûr, ça on est bien d'accord. Alors que sinon, on est quand même... Ah ben. Oui, on est d'accord.
La dernière en date, le dernier truc qu'on a, c'est la chiffonne.
Oui.
C'est Émilie du Châtelet.
Oui.
Rôle ou par rôle, l'histoire.
Rôle ou par rôle ?
Est-ce qu'elle a eu un rôle ou est-ce qu'elle n'a pas eu ?
Alors, je peux donner un élément de réponse ? Parce que, en fait, il faut connaître toute l'histoire, déjà. C'est parce que vous la connaissez donc un peu, donc vous savez que c'était la maîtresse de Voltaire. Que
Voltaire a transcrit tout ce que Newton écrivait.
Et que Voltaire fait un ouvrage sur la mécanique newtonienne d'introduction, que c'est là d'ailleurs qu'on hérite la fable de la pomme. Que Voltaire affirme détenir de la tente de Newton, enfin, on est dans vraiment grand n'importe quoi. Bon, ça c'est un détail, mais ce qui est important, c'est que la marquise du Châtelet a vraiment traduit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait Alexis-Claude Clairaut derrière, qui est un grand astronome français, et que c'est lui qui résout le problème du mouvement de l'apogée de la Lune, parce que dans les Principia de Newton, Newton met la théorie de la Lune à la fin parce qu'il a un facteur 2 sur le mouvement de l'apogée. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le mouvement de l'apogée, c'est que vous avez l'ellipse qui est tournante en fait. Et donc en gros, l'apogée donc, fait un tour autour alors je ne sais jamais si c'est 9 ou 18, je crois que c'est 18, et Newton trouve 9 dans sa théorie. Et problème. Et donc vous avez Euler, D'Alembert et Clairaut qui vont batailler pendant 10 ans plus ou moins en compétition les uns contre les autres, pour résoudre ce problème du facteur 2. Et celui qui le résout, c'est Clairaut. Et qui comprend qu'en fait, ils ont tous fait pendant 10 ans une approximation au premier ordre et qu'il faut aller chercher le deuxième ordre. Et parce que le deuxième ordre a le même poids que le premier, et donc le facteur 2. Donc Clairaut n'est pas le premier venu du tout. Et il est derrière, et c'est, alors là, je ne sais pas bien, j'ai pas, mais il se dit que le livre 3, c'est essentiellement le travail de Clairaut. Il se dit. J'ai pas...
Et d'autre part, ces gens-là ne sont jamais forcément totalement seuls. Il y a des gens autour, quoi.
C'est là que
ça devient réel, quoi.
C'est pour ça que j'ai insisté sur le rôle important de Meslin chez Kepler, que je ne vous ai pas donné parce que je ne le connais pas aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il est important et capital. Et que Meslin n'est pas un astronome anodin. Ça, c'est clair. Mais maintenant, aujourd'hui, ça n'existe qu'en latin. Malheureusement, je ne lis pas le latin. Et il y a une thèse que j'ai récupérée, qui date des années 70, sur Meslin, mais que je n'ai pas encore lue, donc, qui est en anglais. Donc là, moi, je peux la lire. Il n'y a pas de problème. Mais, que j'ai récupérée, enfin, que j'ai fait rapatrier des États-Unis. Mais il y a une thèse, une, sur Meslin. Mais c'est pareil, tout ça permet... Parce qu'il faut faire de l'histoire des sciences comme on fait des sciences. Il faut que ça soit logique. Si on n'a pas de logique... c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est-à-dire que quand on est sur des interprétations qui ne lèvent que des questions, c'est que ce n'est pas ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai gratté Kepler, parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui ne me semblaient pas cohérents, il y avait des trucs qui me semblaient... Puis en grattant, puis petit à petit, en agglomérant tout, bon, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a quand même quelque chose de vraiment important là-dedans.
C'est quelqu'un qui avait peur de son époque. Est-ce que...
Est-ce que dans le fait de mettre d'enrober toute son certaine théorie, est-ce qu'il n'y a pas une façon de protéger le savoir? Ça, je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la manie du grippin?
A priori, son statut de protestant le protège de ça.
Il protège. protestants étaient vraiment protégés dans...
Il faut voir qu'il était en Allemagne, dans un comté qui était particulièrement... où les catholiques et les protestants vivaient en plutôt bonne harmonie, au moins au début de sa vie. Et donc, il y avait quand même une liberté de pensée dans ce comté, enfin, cette région-là de l'Allemagne, où c'était assez... Après, bon, ça a été plus compliqué, mais... Oui.
J'ai lu aussi que Kepler avait été excommunié par le consistoire luthérien. Vous avez entendu parler de ça ?
Non.
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 Donc vous voyez qu'il était déjà assez classé rebelle un petit peu partout, tous les côtés.
De toute façon, Kepler, contrairement à des Galilées, pardon ?
Non, non, enfin luthérien, pas calviniste, non.
Bon, ça, c'est des points que je n'ai pas été chercher. Donc, bon, luthérien. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que contrairement à des Galilée, des Tycho Brahe et autres qui sont reçus dans les cours, Kepler n'est pas si bien reçu que ça. D'abord, il est issu d'un milieu plutôt pauvre. Il dresse un autoportrait qui montre que ça ne l'intéresse absolument pas d'être dans les cours. Donc, ce n'est pas un politique. Donc, c'est la science avant tout. Et il meurt sur la route, hein, Kepler. Il meurt sans le sou. Il n'était pas payé par Rodolphe II. Enfin, bon, c'est pas du tout les statuts brillants d'un Galilée ou d'un Tycho Brahe, où Galilée, dans son procès, il est complètement protégé. Il dort dans la salle des gardes et pas en prison. Enfin, Kepler a une vie de chien, quelque part. Il y a d'ailleurs un roman bien documenté sur Kepler qui s'appelle Une vie de chien, je crois, ou quelque chose comme ça. Il me semble, c'est... j'oublie. Mais toujours est-il que donc, Kepler n'est pas introduit. C'est pas quelqu'un qui est introduit, c'est quelqu'un qui se moque un peu. Alors, il se moque, c'est toujours pareil. Il se moque et il se moque pas de comment sont reçues ces théories. Il s'attend pas à ce qu'elles soient reçues de manière très large. Il a conscience de ce qu'il est en train de faire en termes de révolution des modes de pensée de l'astronomie. Hein. Vous avez vu, il écrit quand même. Hein. Ça y est, j'ai résolu 6000 ans, enfin, après 6000 ans, après 2000 ans. Enfin, il a bien conscience qu'il est en train de tout balayer. Donc, je pense qu'il a assez de lucidité pour bien savoir que ça ne va pas se faire comme ça. C'est quelqu'un, c'est un passionné, il touche à tout, parce qu'il a fait de l'optique, il a fait plein de choses. Quoi, et c'est pas son problème. Comment c'est réceptionné, bon, bien sûr, ça le touche, parce que pécuniairement, c'est important, mais c'est pas plus que ça son problème. Donc, et on sait que ça n'a pas été beaucoup lu, quoi, parce que c'est pas simple à lire. Hein, je veux dire, quand il faut lire tous les chapitres qu'on se dit, bah voilà, on lit un livre, moi, je l'ai jamais fait. Hein. Les passages où il y avait de la physique, oui. Les autres, non. Parce que, enfin, moi, ça m'intéresse pas, je le dis clairement. Moi, ce qui m'intéressait, comme je l'ai dit bien précisé au début, c'est Kepler, le physicien. Donc, c'est ça que je l'ai cherché. Et là, il y a une cohérence, une démarche scientifique que je trouve assez étonnante pour l'époque. Et puis, là encore, on attribue Galilée, le premier scientifique moderne. Bah, je suis désolé, mais Kepler était là avant. Et il a vraiment fait l'adéquation théorie-expérience. Donc, mais bon.
Oui, est-ce que vous pouvez développer là, le problème des procès de sa mère ? Est-ce que ça a eu une influence ?
Ça n'a pas dû l'aider. Alors, je ne connais pas très bien ça. Je sais qu'il a tenu à prendre en charge lui-même sa défense, la défense de sa mère, qu'il a gagnée puisqu'il a réussi à la sortir de la justice. Ça a été pénible pour lui parce que sa mère lui en a pas été reconnaissante pour autant et que, enfin bon, c'est une histoire de famille aussi très lourde hein, chez Kepler. Hein, c'est un père alcoolique. Enfin bon, peut-être bien. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent. Enfin, c'est affectivement parlant, c'est très très lourd. Il perd sa première femme. Enfin bon, il a une vie vraiment pas terrible. J'allais dire un autre mot, mais je ne vais pas le dire. Mais il a franchement une vie difficile. Effectivement, c'est clair que c'est quelqu'un de meurtri. Le procès de sa mère s'en rajoute une couche. Il met un point d'honneur à aller la défendre. Il la sort et puis sa mère, je crois, quasiment l'envoie balader enfin, derrière. Enfin, bon, est-ce que ça a eu un impact si vous voulez, probablement pour sa vie sociale. Maintenant, pour la réception de ses œuvres, j'en doute. Très honnêtement, j'en doute. Alors, perdu, alors, j'ai pas encore vu le film, j'ai acheté le DVD, mais je l'ai pas encore vu. Oui, il avait une mauvaise vue. Alors, il a été atteint de polio. Ah, j'ai oublié le nom. Enfin, bref, il avait tendance à voir double. D'hypoplie. Et donc, c'était pas un bon observateur pour ces raisons-là. Ça l'empêche pas de faire une théorie de l'optique et de la lunette, mais effectivement, c'était pas un bon observateur. Ça, c'est, on retrouve que un peu partout que, où il avait des problèmes de vue. Oui ?
Entre Galilée et Kepler, quel rapport ils entretenaient au niveau de leurs travaux respectifs, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Vous avez mentionné un rapport épistolaire entre les deux.
Oui.
Est-ce que ça allait plus loin? Est-ce qu'ils avaient du respect
ou pas
du tout?
Kepler a lu Galilée. L'inverse, c'est très peu probable. Galilée est assez arrogant quand même. Hein. C'est pareil. Galilée ne comprend pas qu'il faut aller chercher dans les textes de Kepler, donc il est rebuté comme beaucoup d'autres hein, par toute cette littérature foisonnante où ça part dans tous les sens, où il faut aller vraiment chercher pour avoir ce qu'il y a. Galilée n'est pas un astronome. C'est pas un astronome, Galilée, donc il faut bien faire attention. Donc je pense aussi qu'il est un peu largué par rapport à l'astronomie de Kepler. Il ne montre à aucun moment qu'il a compris que Kepler avait décrit ça avec des ellipses, puisqu'il reste avec le mouvement circulaire. Je crois que de ce qui se dit, mais là, je n'ai pas creusé hein, ce point-là, mais de ce qui se dit, globalement, généralement, et ce qui semble vraisemblable, c'est que Galilée n'a pas lu Kepler. L'inverse, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que Kepler lit Galilée. Notamment Kepler, quand il apprend que Galilée a une lunette, est insistant, donc ça doit être retracé dans le film, je pense, de ce que j'ai pu voir dans le synopsis, il insiste pour avoir une lunette et Galilée est un chien avec lui. Parce que Galilée s'est appuyé sur Kepler au début pour être défendu. Kepler, grand seigneur, le défend, etc. Et quand Kepler demande à Galilée une lunette, il lui envoie 10 jours et ça repart. Donc des rapports assez détestables et un peu à sens unique. Et Galilée ne fait pas preuve de grandeur hein, sur ce coup-là. Et donc, je pense que c'est à sens unique. Et donc, malheureusement pour Kepler, c'est qu'il décède en 1631, donc avant la mécanique de Galilée. Parce que là, je pense que ça l'aurait titillé un peu et qu'il aurait pu aller chercher autre chose. Parce que Kepler montre qu'il tient compte des taches solaires et tout ça. Donc tout ça, c'est pris, quoi.
Voilà, merci. Je vois le temps qui passe, malheureusement. Donc on va s'arrêter certainement là. Encore un grand merci. Merci pour cette vision et vraiment cette insistance au niveau de justement pour trouver les choses, il faut aller chercher dans le texte. C'est long, c'est pas toujours facile parce que là aussi, chercher dans le texte, il faut revenir dans l'époque. Les mots n'ont pas toujours le même sens entre l'époque et aujourd'hui. Donc c'est toujours un peu difficile, mais il n'y a pas d'autre façon. Alors au niveau du film, il est reprojeté au TAP Cinéma lundi 26, à, si ma mémoire est bonne, à 15h ou aux alentours de 15h, hein, donc dans l'après-midi. Donc c'était une séance à l'origine qui était destinée aux scolaires, c'est pour ça qu'il est diffusé l'après-midi, mais il est en libre accès aussi pour tous, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais renseignez-vous quand même au TAP Cinéma avant de vous déplacer éventuellement pour bien vérifier si la séance a bien lieu. Voilà. Je vous remercie encore et maintenant je vous donne rendez-vous donc dans quelques temps, au mois de mars, il y aura à nouveau des conférences en astronomie. Bonne soirée, au revoir.
Je voudrais l'écrire avant de le mettre sur Internet. Je voudrais arriver à l'écrire.